Il est midi 5, vous écoutez Radio FMR 89.1 MHz, bonjour. Et comme samedi dernier, eh bien, ça a été un supplément week-end un petit peu spécial en direct du THSF, ça a été pas mal de boulot également. Donc on a décidé de laisser le professeur Xavier se reposer cette semaine.
Passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps.
Mais c'est pas grave, de toute façon, on a de la matière, on vous l'avait promis depuis un certain petit bout de temps, on va dire. Eh bien, ce sera une émission qui sera pratiquement entièrement consacrée aux X-Men.
Yeah!
Avec Thomas, bonjour.
Bonjour du sport.
C'est pas bien malin ce que tu fais là.
On va dire bonjour à nos invités. J'attendais que tu leur dises bonjour en fait. Mais
Eddie qui est complètement interloqué, il se demande ce qu'il fasse.
Oui, bonjour.
Et Corentin avec l'arrivée peut-être de Infested Grunt un petit peu plus tard.
Ah peut-être, oui,
on verra quoi. Bon, en tout cas, la porte reste ouverte. En tout cas.
Alors oui, aujourd'hui X-Men, donc on va revenir avec toi sur les origines du comics.
Oui, oui, oui.
On va parler de la saga cinéma avec notamment on s'attardera un peu plus sur le dernier film Days of Future Past de Bryan Singer, donc c'est le grand retour.
Ouais.
Et donc voilà, on reviendra un peu sur les à côté de la série de cinéma avec les réalisateurs qui se sont succédés, les personnages, la continuité spatio-temporelle, et il y en a à dire.
Et l'affaire judiciaire aussi.
Et l'affaire judiciaire qui est
vachement intéressant.
Voilà, donc voilà, le programme pour aujourd'hui, vous êtes toujours sur Radio FMR 89.1, on est là avec vous jusqu'à 13h30.
Yep, yep.
S'embrasse dans le cou, reste après tout. Je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tout de long s'est mis à danser. Deux grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissé embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là c'est connu. Il a pas de cœur. C'est un balu-pied, un train de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi. Je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi. C'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a ses bras qui m'enlacent. Il y a son corps doux et chaud. Il y a sa bouche qui m'embrasse. À mon avance qu'il est beau. Et puis à le bal, quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit viens, rentrons chez nous à l'animal. Avec lui, j'irai n'importe où, le reste après tout, je m'en fous. J'ai vécu des heures si jolies. Quand il me tenait entre ses bras, je n'aurais jamais cru que dans la vie puisse être heureuse à ce point-là. Mais un jour où tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi. Je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal, mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent chantent au fond de mon cœur. coin où je passe me rappelle mon bonheur. Et puis à l'bal, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux. Parfois j'ai mal, j'ai mon cœur qui frappe à grands coups. Ça m'est égal, je m'en fous.
Radio éphémère 89.1 MHz et on en profite parce que le DJ en chef est pas là pour passer quelques petits morceaux qui sont pas vraiment de la programmation habituelle de Supplément Weekend.
Ça on a vu.
Pas de polémique.
Ouais. Et ça va changer. Bon, on parle des X-Men à présent, je suppose. Ah. On rentre dans le vif du sujet.
Ouais.
Alors je vous fais un topo vite fait en ce qui concerne les comics, quoi. De toute façon, on va pas s'attarder trop dessus.
On demandera à Eddie Corentin s'ils veulent rebondir, y a pas de souci.
Voilà, c'est ça, quoi. Bon, la genèse et tout, quoi. Bon, c'est une maison d'édition dans les années 40 qui essaye de concurrencer Detective Comics, qui marche très fort avec Superman et Batman. Pendant la guerre, ils arrivent également à tirer leur épingle du jeu avec quelques super-héros tels que Human Torch, tels que Submariner et des trucs comme ça. Comme enfin bon, ça va pas péter très très haut. C'est la grosse crise dans les années 50. Crise financière également, crise morale, parce que bon bah c'est à cette époque-là que plus ou moins est édicté un certain code moral qui s'appelle qui est équivalent au codex pour le cinéma, mais qui concerne les comics suite à de nombreuses attaques à des feux de camp de comics et tout dans des villages ruraux du sud des États-Unis, on va appeler ça comme ça, quoi, hein. Et donc c'est au début des années 60 vraiment que ça commence à un petit peu repartir. Mais il faut dire que c'est une volonté de l'éditeur en place, mais c'est un éditeur qui en fait qui s'appelle Martin Goodman et mais qui avait également des magazines, qui étaient plutôt des magazines, on va dire masculin, hein, qui
déjà Goodman avec un nom pareil,
Men, Male et Stag qui allait devenir un peu plus tard Playboy parce qu'il était à l'époque dirigé par un certain jeune loup aux dents longues, Hugh Hefner.
Et il est toujours jeune, hein. Il est toujours
voilà,
aussi
voilà.
Jeune,
mais... concernant la partie comics, il faut savoir que, eh bien, l'un des membres fondateurs, le type que tu vois pratiquement dans tous les films des...
Oh, ouais, le moustachu.
Oui.
Le moustachu, qui était pas moustachu, hein. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est moustachu. Stan Lee, lui, il est rentré, à l'époque dans les bureaux, de Marvel, qui s'appelait pas encore Marvel à l'époque, par l'intermédiaire de Martin Goodman, parce qu'il s'avérait que c'était le petit cousin de machin, de truc de la famille. Donc il fallait trouver du boulot, il avait 19 balais et puis tout ça, donc il a commencé sa carrière en fait officiellement comme grouillot puisqu'il y connaissait rien du tout, quoi. Et au fur et à mesure il a commencé à un petit peu développer son talent pour l'écriture, simplement histoire de développer des histoires complètement folles. Il était pas complètement idiot non plus, il était un petit peu cultivé, il lisait des bouquins, il lisait des bouquins d'anticipation, de science-fiction, des Asimov, enfin tout ce qui traînait à l'époque, on va dire. Il était quand même au courant culturellement de ce qui se passait et de ce qui était un petit peu novateur, ce qu'il essayait un petit peu de retranscrire. Il faut aussi savoir que du côté politique, c'était plutôt du côté, on va dire, démocrate, hein, du côté des libertés civiques et tout le problème et tout le toutim, ce qui à l'époque signifiait quelque chose quand même, on va dire, dans le contexte général de l'époque. Et ce qui fait que au début des années 60, Stan Lee est seul mec pratiquement qui est là depuis déjà 20 ans et il commence à en avoir ras le cul parce que il a fait déjà deux ou trois pelletés de dessinateurs à virer, quoi, parce que il y avait plus de boulot, il fallait réduire le nombre d'éditions de comics justement pendant les années 50, qui a été une période vraiment très très pourrie où on voyait des gens comme Jack Kirby, on y reviendra plus tard, dessiner des westerns ou des aventure de romance, genre teenager, genre shonen, comme au Japon maintenant, quoi. Tu vois un petit peu le genre, quoi. Et au début des années 60, c'est là qu'il y a eu le renouveau, on va dire, qu'il y a eu vraiment le vrai démarrage de Marvel avec les Fantastic Four, qui sortent en août 61. Spider-Man, ça vient un petit peu plus tard, ça vient un petit peu, pratiquement une année plus tard, ça vient en juin 62. Alors Fantastic Four, hein, bien sûr, c'est Stan Lee et Jack Kirby qui créent le concept.
Alors les années 60, c'est ce qu'on considère comme le Silver Age ou le Golden Age?
C'est le Silver Age déjà.
D'accord. Golden Age, c'est la naissance.
Golden Age, c'est au départ, c'est les années 40, jusqu'à la fin des années 40, on va dire, quoi. Voilà, quoi. C'est-à-dire les années 50, en fait. C'est un trou noir, qui concerne pratiquement tout le monde, hein, DC Comics également. Alors, Spider-Man, lui, c'est également, Stan Lee, dans sa conception, dans son idée, on va dire, mais c'est Steve Ditko qui est quand même le créateur, on va dire, de Spider-Man dans son costume et tout. C'est normal. En plus, c'était le dessinateur. Les Vengeurs, eh bien, eux, ils arrivent un an plus tard, en septembre 63. Et, parce que bon, bah, justement, on voulait concurrencer du côté de Marvel ce qui se faisait déjà de chez DC, à savoir la Ligue de Justice qui avait déjà été créée et qui, bon, bah, c'était le groupe de justiciers, un groupe de super-héros et tout. Donc, fallait avoir le sien du côté de chez Marvel. Et, les Vengeurs, donc, apparaissent en septembre 63. Et en plus, le même mois, paraît le premier la première aventure des X-Men.
Alors du coup, ils étaient branchés vachement BD de groupe de super-héros du coup.
Ah ouais, tout à fait, tout à
donc,
fait.
Donc au cas où il y en a un qui marche pas, ils en lancent un autre.
Ouais. Dans, au départ dans les Vengeurs, donc il y avait Iron Man, Ant-Man, The Wasp, Thor et Hulk et les X-Men originaux, vous les connaissez. De toute façon, hein, il y a pas de problème quoi.
Alors les X-Men originaux, il y avait Cyclope,
Iceberg, Fauve, Cyclope.
C'est pas Iceberg. C'est Iceman.
C'est Iceman,
voilà,
c'est vrai.
Bobby Drake.
Il avait des bottes à l'époque, il avait des bottes. Il était tout en neige avec des bottes.
Ouais, ouais. Et donc, on a ceux que vous connaissez, bien sûr. Scott Summers, Hank McCoy, Jean Grey, qui à l'époque est Marvel Girl. Ouais. Et Warren Worthington 3, qu'on a vu dans le X-Men 2, me semble-t-il. C'est le mec avec les
ailes. Angel.
C'est Angel,
quoi.
Ouais.
Hein, tout à ça. Ça, c'est les X-Men originaux.
On parle bien du personnage tout pourri du 3. Hein.
Il y a eu un X-Men 3. Je savais pas.
Un peu plus tard, dans les années 60, encore un groupe qui se crée, les Inhumans, toujours par Stanley et Jack Kirby, hein, qui bosse beaucoup dessus. Il y a pas de problème, quoi. Et bon, au départ, il faut dire que à partir de 1965, bon, bah, ça commence, on revient aux luttes pour les droits civiques et tout ça. Et donc, dans l'esprit de Stanley, il est bien clair que de toute façon, quoi, il y a des grosses métaphores qui peuvent être faites en ce qui concerne, eh bien, le combat des mutants contre le combat des humains, c'est le combat contre les droits civiques, enfin pour les droits civiques et tout, l'émancipation des Noirs aux États-Unis, et c'est à cela que Stanley veut en venir. Hein. Si on considère en plus que bon bah les deux têtes pensantes des mutants, c'est-à-dire de ceux qui sont de l'extérieur, de ceux qui font peur aux gens normaux, eh bien sont d'une part celui qui prône le bien, c'est-à-dire qui prône la réconciliation pacifique, et l'autre qui veut conquérir le pouvoir pour forcer les autres à être à faire que les gens soient acceptés, c'est un petit peu la parabole entre Martin Luther King et Malcolm X. Quoi. Donc de toute façon,
c'est marrant, il fait tout le plan d'émission lui tout seul. Ça, on devait en parler après en fait. Mais c'est pas grave. C'est bien que tu fais une intro. Comme ça.
Ouais, ouais. Il faut même dire que bon, de toute façon, il y a même des événements qui sont bien concrets, hein, qui sont adaptés, on va dire, à la sauce X-Men. Par exemple, au printemps de 65, il y a une manif de militants des droits civiques qui est attaqué par la garde nationale, et quelques semaines plus tard, eh bien, on a le premier épisode où les X-Men se font attaquer, mais battent les Sentinelles justement.
D'accord.
Donc, là, il met le doigt quand même sur la force de Marvel, qui reste très proche de l'actualité, où il y a plus de fond finalement que chez DC, où ça va être toujours plus ou moins la même
chose. C'est vraiment ce qui a été reproché à DC dans les années 60 et tout, et pourtant c'est DC qui faisait un maximum de ventes. Hein, c'est-à-dire qu'on représente plus ou moins, c'était, je crois, lors de, enfin Xavier, il serait là, il pourrait nous le dire, peut-être, il a plus la précision des chiffres, mais c'était l'ordre de trois quarts, un quart, quoi. Donc trois quarts d'ici, un quart les autres, c'est-à-dire Marvel et puis bon les autres petits, mais c'était de cet ordre-là. Donc mais par contre, eh bien au niveau des histoires, les gens ne s'y retrouvaient pas. C'est ce qui a contribué un petit peu à la popularité de Marvel dans les années 60 et à sa popularité grandissante, parce que justement les histoires étaient plus terre à terre, concernaient plus les gens, on va dire, même indirectement. Bon, les états d'âme d'un Spider-Man, il n'y a pas de problème, quoi. Ça parlait à toute une jeunesse, et ça continue à parler à toute une jeunesse de toute façon.
Voilà, non, ce que je voulais juste dire, oui, c'était à cette époque-là, c'était vachement vendu, mais c'était, on était toujours sur un public très enfantin. C'est depuis, Marvel a su conquérir, du coup, un public qui est plus adulte, plus
et ça, c'est une volonté
qui a vieilli avec, d'ailleurs.
Oui, mais ça, c'est également une volonté de Martin Goodman, l'éditeur, qui éditait justement des magazines. C'est ça qui faisait plus son adulte. Pognon, hein, la partie comics pour lui, c'était bon bah en plus, quoi, c'est tout, quoi. Et lui, justement, quoi, il se disait bon bah ok, avec les comics, je cite les kids, avec mes magazines, je cite les adultes, mais il y a moyen qu'il y ait des crossovers qui soient faisables et tout, pour des questions de pognon, bien entendu, quoi. Et là, ben, c'est du côté business qu'il faut également envisager un petit peu les choses. Alors, il y a un autre groupe de super-humains qui apparaissent dans les années 60, en 65, c'est les Inhumans de Stanley et Jack Kirby. À noter que cette année-là, il y a une anecdote parce que bon, Marvel commence à être quand même assez connu. Ils ont déménagé de leur vieux studio pourri, miteux qu'ils avaient quoi, dans je sais plus où, dans New York, et là ils sont sur Madison Avenue. Donc, plus haut, il y a des bureaux pour les autres magazines de, que j'ai cité un petit peu plus tôt, avec des auteurs, des écrivains qui rédigent des articles pour ces magazines, tels que Mario Puzo, un type qui va nous écrire le parrain qui donnera le film. Donc en 65, ce qui se passe, c'est que Federico Fellini quoi, qui fait une tournée quoi pour son film Juliette des Esprits aux États-Unis, quoi, qui vient d'avoir un prix à Venise ou enfin bon, bref, qui fait une tournée aux États-Unis, donc puis bon, lui, il a envie de visiter les studios Marvel, il arrive au studio Marvel et puis il y a Stan Lee qui l'accueille, qui lui répond très poliment, bonjour et tout, vous êtes le bienvenu, et puis bon, qui se barre bosser quoi, et puis après qui demande, mais c'était qui ce type? Je connaissais même pas Federico Fellini quoi.
Alors okay. Les gars, vous avez vu, on commence bien, Fellini, Playboy, j'espère que ce sera à la hauteur après, hein.
Il remet bien dans le contexte. Il n'y a pas de problème. Alors, pour faire bref également au niveau des dessinateurs et des différents auteurs, bon, ça a commencé avec Werner Roth, Roy Thomas. Ça, c'est l'époque où Roy Thomas a créé, on va dire, a rajouté des X-Men, parce que les X-Men originaux, ils faisaient un petit peu vieillot, quoi. Il faut dire que la série s'était arrêtée, quoi, en 70, pour reprendre un petit peu plus tard, c'est-à-dire série en tant que magazine estampillé X-Men, quoi. C'est-à-dire qu'après, ça continuait, mais on rééditait des histoires qui avaient déjà été éditées, mais dans les fascicules à l'intérieur et tout ça, quoi. Et c'est à partir de mi-70 que, il y a quand même beaucoup de surprise qui arrive, avec donc l'apparition de Wolverine, hein, sous la houlette donc de Roy Thomas, mais c'est surtout développé par Len Wein, c'est lui qui donne les aspects de Serval, Wolverine en français.
Len Wein, c'est le scénariste, hein.
Len Wein, ouais, c'est le scénariste, et John Romita au dessin, le papa de Junior. Voilà, ok. On a également Neil Adams pendant cette époque, ouais, c'est à la fin des années 60, début des années 70, Don Heck, et c'est à partir de la création de cette nouvelle équipe, quoi. On met plus ou moins au rencard la vieille équipe, et puis on rajoute d'autres éléments, et sous la houlette d'un certain Chris Claremont, que là, les choses se décantent. Chris Claremont associé à Dave Cockrum. C'est Chris Claremont qui invente c'est la fameuse interjection quand les lames sortent, snicked, entre autres.
Comme quoi, on peut être réputé pour sa carrière avec juste une onomatopée, quoi.
Pas seulement Dave Cockrum de ce côté, quoi. Il avait déjà inventé des super-héros qui n'avaient pas été acceptés, donc il les a adaptés un petit peu, et puis ça a donné Storm, ça a donné Colossus, et ça a donné Nightcrawler, Diablo en français. Claremont qui va faire un bail de 10 ans à la tête des X-Men, hein, de 75 à 85, pratiquement sans interruption, en changeant quand même de dessinateur, on va dire. La plupart du temps, il a quand même fait un super long bail avec John Byrne, on va y venir parce que ça concerne le film dont on va parler. Claremont qui fait également transformer Marvel Girl en Phoenix, tel qu'on la connaît maintenant, quoi. La plupart des gens savaient pas qu'au départ Jean Grey c'était Marvel Girl.
Moi, je savais
au
pas.
Départ dans la version originale.
Ah, je savais pas du tout.
Elle a été, c'est quelqu'un d'autre ensuite qui a repris le flambeau, ou elle est morte avec quand elle a changé de nom.
Ouais. Et Marvel Girl, ça fait très Hugh Hefner dans l'esprit. Moi, j'aime bien.
C'est-à-dire, c'était quoi ta question?
Alors, par exemple, dans les Batman et Robin,
est-ce que quelqu'un a repris le nom de Marvel Girl?
Oui, voilà.
Oui, je crois, ouais. Puisqu'on en a une qui est rendue chez les Avengers.
Dans les Vengeurs, ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Dans les Vengeurs, mais je me rappelle pas qui c'est, quoi. Effectivement,
c'est tellement foisonnant qu'on en oublie un peu.
Ouais, tout à fait. Alors, donc, on en revient à Chris Claremont, donc, qui, après le départ de John Byrne, commence à bosser avec John Romita Jr. en 85, donc le fiston, déjà. D'accord. Mais auparavant, le dernier épisode que Claremont et Byrne livrent, c'est Days of the Future Past en deux parties.
Le dernier épisode.
Dernière collaboration, donc dernière collaboration dans ce set de temps où ils sont restés à bosser des années et des années et des années sur le même titre, sur le même truc et tout. Ils avaient également d'autres boulots, ils faisaient pas que ça, parce que bon, Marvel, c'était quand même un petit peu l'usine. Si je vous dis que dans les années 60, au début, quand tous les Fantastic Four, les Spider-Man, les premiers Vengeurs et X-Men, les dessinateurs, on leur donnait une indication de ce qu'allait être l'aventure, il faisait le dessin, il laissait les bulles vides et tout, quoi. Et après, Stan Lee venait remplir
les gros nazes.
Et ça a duré quelques années, justement avant que, bon, bah, des gens, un petit peu plus au fait de l'écriture, on va dire, hein, de la mise en page et tout ça, quoi, tels que Roy Thomas, par exemple, et d'autres, eh bien, ont réussi un petit peu à imposer leur point de vue à Stan Lee. Stan Lee, qui à l'époque, au début des années 60, était déjà le vieux. Il avait 39 balais, mais il était rentré à Marvel, en fait, Timely, à l'âge de 19 balais. Il avait 39 balais. Il embauchait des gens qui avaient, à part Kirby ou d'autres gens qu'il avait côtoyés, tels que Siegel, tels que Simon, les créateurs de Superman, qu'il avait fait un petit peu travailler chez lui dans les années 50, fin des années 50. Tous les autres, ceux que nous on connaît, qui sont maintenant des vieux ou qui sont déjà morts, tels que Dave Cockrum, par exemple, eh bien, c'était des petits jeunes qui débarquaient dans le métier à 22, 23 ans, ou qui étaient des fans, qui avaient envoyé un courrier à Marvel pour dire « Oui, je fais partie de vos fans et tout, mais regardez, et puis je travaille. » En plus, puis bon, des fois, bah, ça débouchait sur du concret.
C'était alors, beaucoup moins important.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, alors Days of the Future Past, hein, ça, c'est sorti en 1981. Un petit peu plus tard, eh bien, on a également Mark Silvestri qui a quand même fait un long run sur le truc 87-90, hein, qui est assez impressionnant, on va dire, parce que bon, c'est une période, on va dire, les années 85-90, qui a été vachement sombre pour les X-Men, où ils sont allés vraiment assez loin. Plus tard, dans les années 2000, le 2001, eh bien, c'est quelque chose que tu connais, Thomas, les Ultimates, la création des Ultimates, X-Men, Mark Millar et Adam Kubert.
Je crois que toi, t'es branché dessus, toi, Corentin.
Moi,
j'ai
commencé les comics avec Ultimates. J'ai commencé les comics après avoir été voir Spider-Man au cinéma et en ayant vu qu'il rebootait complètement un univers, il repartait avec des idées beaucoup plus modernes et des nouveaux auteurs. Ça a été Mark Millar, Brian Michael Singer et
Michael Bendis.
Bendis.
Singer, ouais. Singer, c'est le gars du cinéma. Oh là là. Et donc tu les as découverts en VO ou en VF?
En VF.
D'accord.
J'étais jeune.
Bah écoute, voilà. Y a pas de honte. Hein.
Non, et puis après passer à la VO, après on s'en sort plus. Faut rattraper tout ce qu'on a loupé et puis il faut acheter. Parce que ce qu'on a peut-être oublié de dire, c'est que les comics sont, contrairement aux BD franco-belges, sont des trucs épisodiques, c'est-à-dire qu'il y a un épisode qui sort toutes les semaines. C'est en général 5-6, enfin une dizaine de pages, pas plus de d'épisodes. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu tout un moment où c'est une vraie industrie et où des mecs donc dessinent tous les jours pour avancer au maximum et où on peut avoir des soucis avec des gens comme Brian Hitch qui prennent beaucoup de retard parce qu'ils dessinent beaucoup trop bien pour l'industrie que c'est. Mais il y a des gens qui se sont fait une énorme place parce qu'ils étaient capables de dessiner très vite. Et des gens comme Rob Liefeld ou Capullo par exemple, qui sont fait une place comme ça, qui sont fait une place pour faire un métier comme un autre. Et eux, c'était comme aller à l'usine, ils arrivaient le matin, ils dessinaient, tac.
C'est également le cas de Jack Kirby, hein, qui dans toutes les années 60, on va dire jusqu'à qu'il se casse, quoi. Jusqu'à il coupe le cordon, on va dire un petit peu, quoi, parce qu'il y avait quand même quelque chose de spécial entre eux. Ouais. Bah, lui, c'était le mec qui torchait, mais vraiment un nombre de planches. Il raconte qu'il torchait jusqu'à 10-12 planches par jour.
Oh là là.
Mais par contre, il bossait pas au bureau, lui il passait une journée au bureau, le reste du temps il travaillait à la maison, quoi. Donc c'est également le cas de Steve Ditko un peu plus tard quand il avait repris le titre de Spider-Man. Enfin bon, il y avait un léger une légère divergence de connivence entre lui et Stan Lee à l'époque, quoi. Et donc Stan Lee lui a dit bon bah tu veux Spider-Man, démerde-toi, fais pas chier et tout, quoi.
De toute façon
à l'époque il était pas d'accord Ditko sur là où allait Spider-Man, lui il voulait aller faire évoluer Spider-Man un petit peu plus loin, quoi. Donc
de toute façon, pour ceux qui connaissent pas trop les comics visuellement, on peut voir vraiment la différence de rendu des dessins entre les comics qui sont faits aujourd'hui et les comics de l'époque, où tu vois vraiment que le mec quand tu vois le résultat, sans pour autant diminuer leur qualité, tu voyais que c'était fait à l'usine, quoi. Les vides qui étaient énormes, les mecs qui étaient toujours représentés un petit peu de face, de profil, voilà. alors qu'aujourd'hui c'est surchargé. Alors après, avec les côtés positifs et négatifs bien sûr, hein, mais
oui, alors on va le répéter encore une fois pour les gens qui nous écoutent et qui sont peut-être pas au courant, mais les comics c'est fabriqué de cette façon. Il y a un type qui dessine au crayon, il y a un autre type qui arrive et qui lui encre, ça lui refait les contours et tous les noirs,
qui repasse au propre,
qui repasse au propre. Et après il y a une troisième personne, voire quatre des fois, quoi, qui viennent pour mettre les couleurs.
Alors il y en a un qui arrive pour les couleurs,
il y en a un qui fait les dessins,
le lettrage.
Et des fois il y en a un qui fait juste le lettrage.
Et
voilà,
il se murmure qu'il y en a même des gens qui font du scénario.
Ça a vachement changé ça quand même. Maintenant c'est vraiment le scénariste qui envoie son truc au dessinateur là-dessus. Il n'y a plus beaucoup de mecs qui commencent le dessin, sauf des gens qui sont capables de tout faire. Il en existe, pas beaucoup, mais il y en a certains qui font tout, comme Frank Miller par exemple.
On vous propose une petite coupure musicale puisque nous sommes à la fin de cette intro sur le comics originel X-Men qui a duré 30 minutes. Donc si vous voulez réviser un petit peu vos X-Men, vous avez qu'à vous retaper tout ça en podcast en faisant des pauses au milieu si vous voulez. Allez, petit.
Vérifier qu'on n'a pas dit de bêtises, tout ça.
Ouf, je pense qu'on a dû en dire quelque part. Mais... Bon. Tumalele, oh, tumalele, oh, tumalele, tumalele, oh, tumalele, oh, tumalele, the big bad play, oh, the big bad play, oh, the big bad play.
Je suis un sauvage, mais pas esclave, ça va pas de soi. Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro, mon odeur assomme les illuminés. Je suis un sauvage, mais ils ont réussi à me faire chanter. Je suis fier d'être bourguignon. Ils sont futés tout de même. Écoutez, arrêtez votre cinéma. Ce n'est pas parce que je prends un petit whisky que je suis imposable, hein? Avec quelle sauce préférez-vous être mangé? C'est l'État qui paye. Rongez-vous les ongles, vous verrez qu'il réagirait. C'est un faible. En me prostituant pour ma liberté, j'ai découvert le fric. Évidemment, je n'avais plus de salive pour cracher dessus. Oh. Je me suis aperçu trop tard qu'il exploitait la conscience par l'inconscience. Comme dit le concierge de la Maison Blanche, c'est un crâneur. Truc et tout, mais pas le rire tout de même. Papa. Si le curé a fermé l'œil, c'est qu'il espérait se faire pardonner. De grâce, ne lui lancez pas la première pierre. Vous en aurez besoin. Olé. Je ne veux pas monter pour que vous me lâchiez. Je préfère rester pour mieux nager. Je ne veux pas monter pour dégringoler. Je préfère rester pour me marrer.
on était en train de parler d'un autre groupe de super-héros qui fera son apparition sur les écrans, mais ce sera cet été, dans le trou noir de l'été, quoi, pratiquement à la mi-août, quoi. C'est les Gardiens de la Galaxie. Mais on est là pour parler des X-Men.
Voilà, à l'occasion de la sortie de Days of Future Past, puisqu'on a, juste avant la coupure musicale, on a rappelé les origines de la franchise X-Men avec les débuts de Stan Lee, etc., le Silver Age, chez Marvel Comics, tout ça. À présent, on va parler du côté cinéma. Est-ce qu'il y a des gens qui ont découvert Eddie, on l'a pas entendu trop là. Est-ce que t'as découvert l'X-Men avec les films ou est-ce que tu le connaissais déjà avec la BD ou voire même avec la série animée?
Non, je le connaissais avec la BD. J'achetais quand j'étais jeune ce qu'on appelle les Strange, les Nova. Donc voilà, moi je comme disait Corentin, c'était des épisodes, donc on avait un petit peu tout et j'avais même, je m'en rappelle avec mon cousin.
Strange et Nova, c'est quand même l'époque des Claremont, voilà. Burn, hein, ouais, je veux dire en grande partie quoi.
Là où Wolverine s'appelait Serval.
Ouais, et là où Phoenix devient le Phoenix noir et tout ça, enfin bon, la bonne période, on va dire. Une des bonnes périodes.
Ouais, et du coup, je m'en rappelle, je jouais avec mon cousin avec les figurines à l'époque. Donc voilà, il y avait des figurines, Captain America, etc. Donc voilà, c'était le bon vieux temps, quoi. On achetait ça, je me rappelle, dans les petits bureaux de tabac l'été, on se prenait 2-3 Strange.
Alors quel était ton mutant préféré? Puisqu'on va faire un tour de table, du coup. Les mutants préférés quand on était gamin.
Alors, bon, moi déjà, là-bas, je suis pas très X-Men. Bon, voilà, je les ai lus, hein, un petit peu comme tout le monde, mais c'est pas trop ma tasse de thé. On va dire que dans les mutants préférés, je vais pas citer Wolverine. Parce que bon, parce voilà,
c'est dans le commun.
Voilà, moi c'était plutôt Gambit. J'aimais bien le côté un peu décalé. Calé, nonchalant du personnage.
Pas mal.
Il tranchait un petit peu avec les autres, quoi.
Gambit qui est apparu dans les années 90, début des années 90.
C'est le côté bluff, ça. C'est le côté jeu de cartes.
Oui, mais il était séducteur. Voilà, il était vraiment à part, quoi. Bon, après, oui. Les autres, ça faisait plus... De toute façon, on y reviendra sur les films de Singer. Les autres, ça faisait plus placement produit, quoi. Donc voilà, Diablo, il a telle faculté. L'autre, il a telle faculté. Alors que lui, bon, finalement... Bon, ok, il transformait tous les... Enfin, c'était un peu ésotérique. C'était le personnage un peu ésotérique du truc, un peu mystérieux. L'anti-héros, par excellence.
Et qui valait plus que juste ses pouvoirs. Parce qu'il y a certains, ils sont résumables à leurs pouvoirs. Et puis, basta, quoi.
On va en reparler quand on parlera du film.
D'accord.
Parce que je pense que c'est un des gros problèmes des X-Men, c'est que une tendance à vouloir rassembler énormément de personnages et pas forcément les présenter ni vraiment approfondir leurs histoires, ce qui est peut-être un peu leur talon d'Achille, je pense.
Alors on parlera pas de ça aujourd'hui, on va juste l'énumérer, mais il faut juste savoir aussi qu'il y a la franchise Marvel versus Capcom et les X-Men versus machin dans les jeux de baston qui sont très très bien. Moi j'ai beaucoup appris sur les X-Men et les personnages de Marvel en jouant sur la PS1, la PS2 à l'époque. Donc on va parler à présent de la saga cinéma qui est dont le premier film réalisé par Bryan Singer est sorti en 2000. Mm-hmm. Alors il faut se remettre dans le contexte. Alors on va rappeler qui était Bryan Singer à l'époque. Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite, ça sera pour tout à l'heure. Donc qu'est-ce qu'il y avait à l'époque en film de super-héros, pour le grand public? C'était surtout DC Comics qui se tapait la part du lion avec tous les Superman des années 80 et les Batman des années 90, avec
Monsieur Tim Burton,
voilà, le joli démarrage avec Burton et le suicide, comment,
qui était joué par
Julien Lepers, effectivement, dans un manoir.
Corman, il avait fait deux superbes adaptations Marvel, hein. Il avait fait Les 4 Fantastiques et Captain America. Personne veut rebondir là-dessus. C'est disponible sur le web.
Non, mais c'est
génial.
Est-ce que c'est le Captain America avec son bouclier transparent et la moto Captain America?
La moto Captain America, oui. Réalisé par Albert Pyun, donc très bon réalisateur qui a fait Cyborg, entre autres. Un chef-d'œuvre aussi avec Jean-Claude Van Damme.
Il n'y avait pas déjà eu un Hulk aussi?
Le Hulk télévisé, ouais.
Oui, le Hulk télé, ouais. Mmh. C'est ça.
Ah, je m'étais pas, ouais. Donc, il faut savoir que donc ça sort en 2000. Deux ans avant, on avait Blade 1, on avait Judge Dredd en 95, souvenez-vous, magnifique.
Ah, superbe, ouais.
On avait
petite combi moulante.
Voilà. Et un petit Punisher aussi, fin des années 80. Bon,
oui, bon alors là,
rien de trop transcendant.
Alors, Nick Fury aussi.
Oui. Voilà, Nick Fury, ouais.
Nick Fury avec David Hasselhoff. Il faut pas trop allumer là-dessus parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais le Punisher des années 90, hein, avec Dolph Lundgren, il a jamais été dépassé. Hein. Je suis désolé. Hein. Ils ont fait deux versions. Moi, je vous invite à le revoir quand même. Hein.
J'aime bien celui avec Stevenson.
Le War Journal.
Le Warzone.
Non, mais il est bourrin. Il est bourrin. Voilà,
il est
gore.
Bah oui.
Mais il y a vraiment.
Punisher, c'est un perso bourrin aussi. Hein.
Oui,
c'est un mec, il arrive au milieu des truands, il les bute tous. Voilà, ça se résume à ça.
Le Punisher, c'était Mark Goldblatt qui était le monteur de Cameron. Et ben tout le monde se fout de sa gueule de ce film. Et ben il est vachement bien, moi. Enfin,
d'accord.
Non, mais personne rebondit là-dessus.
Non, mais
chers auditeurs, je vous invite à le récupérer en VHS, hein, parce qu'en DVD ça vaut rien. C'est en VHS qu'il faut le regarder.
En VHS avec les barres rouges, d'accord.
Ouais.
Les couleurs qui baffent. Alors suite à X-Men, alors là on voit bien avec la chronologie que c'est X-Men qui a conjointement avec le premier Spider-Man de Sam Raimi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, lancer cette nouvelle vague de super-héros où on a 4 à 5 films par an présent.
En fait, oui, surtout, je pense que ça a été le premier film qui a montré vraiment à tout le monde et aux studios, etc., que petit 1, on était capable de rendre crédible tout ce qui est pouvoir, etc. Parce que effectivement, les Fantastic Four de l'époque avec un homme élastique, avec un bras en mousse, voilà, ça c'est très très vite, ça tient pas la route. Et là, pour le coup, avec les premiers X-Men, bah voilà, on a Wolverine qui sort ses griffes, on a de la 3D, etc. C'est crédible. Et en plus, ça marche. Pour le premier X-Men a quand même un peu cartonné. Pas au point des Avengers depuis, mais tout d'un coup on s'est dit c'est possible. Les mecs à Hollywood se sont dit putain c'est génial, en plus on est assis sur une mine d'or, il y a tellement de personnages que on peut tenir des années, et je pense qu'on va en avoir finalement.
Oui, bah, on n'a pas fini là,
effréné jusqu'à la fin de nos vies.
Mais ouais, c'est vrai que ce que tu dis sur rendre crédible, puisque là quand je vois les films qui avaient été sortis avant, donc les Batman, bon ben là à l'époque Gotham City c'était pas la Gotham City de Nolan, donc c'était un truc qui était complètement hors de notre temps à nous,
très gothique,
voilà. Les Superman, c'était tellement bigger than life que donc bon, c'était le monde de
c'est
Superman.
C'est Superman, hein, justement, quoi. Voilà. Il faut quand même dire que Superman, ça a été dans les années 80, début des années 80, ben, les premiers et qui bénéficiaient des nouvelles technologies de l'époque.
Exact.
Ce qui était pas mal, les nouveaux effets spéciaux, les gens qui s'occupaient des effets spéciaux depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, étaient devenus des vrais pros qui travaillaient, ouais, avec du matos moderne, qui avaient les moyens suite au succès de films de science-fiction tels que Star Wars et autres,
Star Trek
donc Superman à l'époque était vraiment le film. Je parle du Superman, le premier qui est sorti. Oui. Après, les suites ont été un petit peu plus négligeables, on va dire. Mais enfin, ça a été quand même bien la preuve, justement, quoi, pour les gens de Hollywood. C'était pas dans les années 90, hein, c'était vraiment Superman, la preuve que même des héros qui sont super vieux, qui sont âgés, qui sont datés, tels que Superman, on peut pas faire plus daté que Superman. Même les autres arrivent à s'adapter dans le monde moderne, se sont toujours plus ou moins adaptés dans le monde moderne, alors que Superman a toujours été plus ou moins dans sa bulle, toujours été considéré comme étant un étranger, même chez lui, c'est-à-dire sur Terre. Il y a toujours eu cette nostalgie du retour vers la planète originelle, vers Krypton et tout ça, quoi. Bon, c'est plus ou moins une constante, quoi, dans la ligne de Superman, enfin du moins le Superman du Silver Age à partir des années 60-70, quand les gens qui écrivait pour Superman, se disait bon, il faut rajouter un petit peu d'épaisseur au personnage, on va dire.
Du coup, il rajoute une super girl, un super chien et des super
crypto le chien. Non, ouais.
Oui, mais ça participait du même fait que le merchandising qui avait donné la série Batman dans les années 60, les séries animées et tout team, hein, c'est-à-dire c'était vraiment un super merchandising.
Alors revenons aux X-Men, on va se recentrer un petit peu. Alors Bryan Singer qui sortait du succès colossal de Usual Suspects, qui ensuite avait sorti de Un élève doué avec Ian McKellen.
Déjà
magnifique.
Déjà.
Excellent film.
Voilà, donc je sais pas si vous avez des trucs à dire sur la carrière de Singer à l'époque.
Ah ouais, mais on va être méchant en fait.
Non, je pense pas qu'on va être méchant, on va être juste réaliste. Enfin, moi, si je peux me permettre une parenthèse sur lui, c'est vrai que par rapport à mon zine, j'avais fait un petit peu des recherches entre guillemets.
Septième dimension, hein.
Oui, voilà, j'essayais pas de le placer, mais bon, je sais pourquoi j'avais fait des recherches. Donc, parce que j'ai fait des recherches, c'est pour. Et finalement, je retrouvais pas dans les X-Men ou dans les films suivants. Je sais pas, l'espèce de formule qu'il y avait dans Usual Suspect, et c'est vrai qu'on remarque que Usual Suspect c'est un peu comme le premier Star Wars, hein, c'est plusieurs personnes, hein, qui sont derrière, et j'aurais tendance à dire que si c'est Usual Suspect scénar, en fait, a bien marché, c'est aussi essentiellement grâce à Christopher McQuarrie qui est le scénariste, hein, et réalisateur, qui a fait Way of the Gun derrière,
ouais,
qui est d'ailleurs excellent.
et mais qui est pas crédité mais qui est co-scénariste du premier X-Men. Hein. Macari. Oui.
Alors, on le verra tout à l'heure sur le premier X-Men. Il y a pas que quand même hein, sur.
Mais justement, on en parle. Bah, vas-y, alors, enchaîne sur le premier X-Men.
Ce qu'il faut savoir, je pense que peut-être que du sport en a entendu parler ou même toi, le documentaire Marvel Renaissance qui a été produit par des Français et qui est un petit
tout récent là.
Ouais, tout récent et d'ailleurs qui n'a pas eu l'aval hein, de Marvel et qui remue un petit peu le caca entre guillemets sur une certaine période, notamment des années 2000 où on voit que des gens comme Tom DeSanto, David Ayer, qui sont scénaristes et producteurs des deux premiers X-Men, comme par hasard, hein, des deux premiers X-Men, ont disparu de la circulation. Ou même quelqu'un comme Avi Arad.
Ayer, je crois qu'il a quand même tourné quelques films, enfin des TV, des trucs comme ça, en tant que réalisateur.
Oui, en tant que réalisateur,
un petit peu plus tard dans les années 2000.
Il est vraiment passé en.
Ah ben il est outlisté, à mon avis. Hein.
Et on ne sait pas pourquoi. C'est un peu comme l'affaire Gary Kurtz sur Star Wars. Mmh. Donc, et donc ce documentaire met bien le point, c'est-à-dire sur l'idée qu'à un moment donné, certaines personnes qui ont repris les rênes sont écartées, on va dire, la réflexion boy de Laurie Ben, notamment de la X-Men. Résultat, ça donne X-Men 3. Ça donne les standalone avec Wolverine aussi, hein, qui sont quand même bancales, il faut le dire. Et du coup, on va aller même plus loin. Hein, ça, on va aller sur les derniers Spider-Man, etc. Donc, même, on regarde le fameux Spider-Man 4 que devait tourner Sam Raimi, qui n'a jamais été tourné pour. Sous grec raison, on ne sait pas. Donc, on sent qu'il y a vraiment chez la Fox un besoin de faire du pognon et d'écarter au maximum.
De remettre la main sur.
Ouais, de se réapproprier le. On va dire le machin. Donc, du coup, effectivement, le premier X-Men, tout le monde sera d'accord autour de cette table, c'est pas les effets spéciaux, finalement.
Oui, parce qu'ils sont assez pourris quand même.
C'est la caractérisation des personnages et les rendre crédibles.
Oui.
Qu'on pourrait les croiser dans la rue. Hein,
exactement ça. Oui.
Alors à savoir que ça a été aussi vachement donc c'était justement on parlait de l'univers Ultimate à l'époque ils se sont vachement appuyés sur ces nouvelles BD qui remettaient vraiment dans le concret dans le moderne des personnages qui existaient effectivement depuis des 40 ans quasiment et du coup repartir avec des thématiques très moderne, virer un peu les lycra fluo et
d'ailleurs il y a une blague dans le film avec la combinaison jaune.
Voilà, et du coup remettre beaucoup de noirceur là-dedans. Et le premier film a fait partie de cette mouvance-là de l'époque. Bon voilà, après ils ont un petit peu dérapé effectivement, on revient toujours à X-Men 3 mais ça a fini par repartir dans tous les sens, mais c'est pas évident, je pense que c'est les X-Men c'est pas évident à adapter en film parce que les X-Men mine de rien c'est énormément de séries différentes. Oui, sur un groupe d'individus voilà qui sont les mutants mais on va avoir Wolverine qui est déjà dans depuis les années 90 qui est quasiment dans toutes les super équipes qui existent chez Marvel. On va avoir des trucs qui sont par exemple comme X-Force qui vont être vachement adultes, vachement sérieuses avec des mutants pour le coup qui tuent des gens.
Ouais.
Pour des raisons normalement.
X-Force, il faut préciser que c'est la variante, c'est les X-Men canadiens, on va dire, qui au départ sont
avec Sasquatch et
sont initiés, on va dire, par Logan, vu que Logan est canadien. Quoi, ouais. Donc effectivement, quoi, ce sont des super-héros qui ont license to kill et tout. Ça permet justement quoi aux X-Men ou à ce qui se passe dans la galaxie X-Men ou autour, quoi, de garder les mains propres, on va dire, plus ou moins quoi.
Et ça permet les Black Ops, en fait.
Et ça permet également aux auteurs et à Marvel, de dire, regardez, nous aussi, on commence à rentrer dans un monde très très noir, dans des trucs qui sont pas possibles et tout. Parce qu'il faut dire qu'en face, à l'époque, il y a quelqu'un qui a bossé pour Marvel sur un certain Daredevil, mais qui s'est barré du côté de DC, quoi, pour nous revisiter Batman. C'est un certain Frank Miller.
Ouais.
Donc, je crois que tu parlais de Ben Affleck. Alors effectivement le ton des comics à l'époque est quand même vachement dark, vachement sombre,
plus adulte,
plus sérieux.
Alors X-Men 1,
si je peux me permettre, ça t'embête pas, j'aimerais revenir sur ce qu'il disait. Ce que il disait que avec X-Men, on a une mine de personnages, c'est super complexe, etc. Moi, je dirais juste qu'en fait, ils ont pas eu les burnes, pour parler bien comme il faut, de réinventer quelque chose pour le ciné. La BD, c'est la BD, et le ciné, c'est le ciné.
Alors
voilà, c'est alors.
Alors là, je pense que là, avec ce que tu viens de dire, on touche le fond du problème en ce qui concerne le film dont on va parler.
Oui, ouais. Et je vais étayer avec un exemple précis. Tu parlais des origines, hein, finalement cinématographiques. On prend le personnage de Blade. Pourquoi Blade ça marche? Parce que Blade, déjà, c'est pas un personnage qui est super connu dans la BD. Et puis parce que derrière, on a une volonté de se réapproprier le look du personnage. On place un réal à chaque fois. On regarde le 1 et le 2, on a deux réals à forte personnalité derrière. Putain, ça. Et
les deux sont différents.
Et je le place, hein, juste avant d'embrayer sur,
sur le
Deus.
Dis-le.
Le Blade 2, enfin voilà, moi je le dis, il enfonce, mais dans les grandes largeurs, les trois quarts des films de super-héros qui sont sortis ces dernières années.
Mais moi je suis d'accord avec toi.
Visuellement, thématiquement,
sans pour autant oblitérer certains défauts du film qui restent malgré tout.
Voilà, ça c'est dit.
Ouais, ouais,
okay. Bonne journée.
Ouais, ouais. X-Men. Non,
ouais. Là-dessus, sur ton absence de couilles, comme tu disais, ils l'ont quand même. Il y a le X-Men, du coup, le X-Men Origins
First Class.
Mm-hmm. Pour le coup, là, je trouve qu'il y a eu. Il y a eu une vraie vision. Il y a eu une vraie décision de remettre à plat et de remettre un peu à zéro.
Une seule sur six films.
Voilà, une seule sur six films, complètement. Je suis complètement.
Mais on y reviendra sur Matthew Vaughn. On y reviendra. Voilà. Pourquoi on le retrouve pas sur ce film-là?
X-Men, voilà, si on le retrouve, il est au scénario, hein, du Singer, quoi.
Il sait parce qu'il avait écrit le truc, il devait le réaliser, il s'est barré avant la crise.
Oui, oui. Bon, donc on va le payer.
Allez, on va se débarrasser du premier film. Donc, on a dit que c'était le film qui avait lancé le truc parce que c'était des mutants crédibles. Il y avait quand même toute la première partie du film qui fonctionne très bien.
Avec
un Wolverine. Avec un Hugh Jackman qui est inconnu à l'époque, ils prennent Anna Paquin puisque ça permet aux spectateurs de s'identifier aussi à elle pour les plus jeunes, et double identification. Wolverine qui découvre justement les trucs secrets du professeur Xavier, et la petite ado qui est mal dans sa peau, donc ça on retrouve les sources des X-Men, c'est-à-dire l'adolescence,
la découverte des pouvoirs,
les communautés qui sont un petit peu attaquées de partout. Voilà. Voilà. Après, le film part un tout petit peu en vrille sur la présentation des installations du professeur Xavier, de l'école. On peut dire aussi que toute l'équipe des bad guys derrière Magneto, à part Mystique, c'est vraiment du déchet. Ils sont
sur la butte pour les créatures. C'est
du remplissage.
Oui, du remplissage de crapaud, c'est n'importe quoi.
Et Dent de Sabre qui est complètement loupé.
Oui.
Alors, pour le coup, c'est peut-être le seul intérêt du premier Wolverine. On a un bon Dent de Sabre.
On a un vrai
badass,
ouais.
Avec une carrure, une gueule et une histoire.
Il y a des bonnes choses, hein, sur ce premier Wolverine.
Il y a quelques bons trucs.
Trucs,
hein. Et après, ils nous ont foutu en l'air Deadpool, ces enfoirés.
Oui.
Alors.
Et ça, c'est impardonnable.
Voilà, pour finir sur le premier, comme ça, on pourra embrayer sur le deuxième, hein.
Oui.
Il faut noter que le premier film est un très bon film, hein, du point de vue du scénario, etc. Par contre, il est complètement loupé sur les scènes d'action. Une impossibilité de mixer tous les super, et de retrouver finalement la force des cases, hein, de la BD.
Bah, la scène dans la gare, c'est n'importe quoi. L'espèce de climax tout pourri sur la Statue de la Liberté où attention, j'ai un créneau.
C'est cadré en large, c'est pas découpé, c'est lent. Enfin bon, voilà, c'est département effets spéciaux en roue libre, quoi.
Ouais.
X-Men 2, donc ça c'était l'an 2000. X-Men 1, donc le numéro 2 arrive en 2003. Toujours réalisé par Bryan Singer avec plus ou moins la même équipe derrière.
Oui.
John Ottman, toujours monteur et toujours compositeur, qui succède à Michael Kamen, qui se réapproprie un petit peu le thème musical. Même casting, on met deux fois plus de mutants. Cette fois-ci, le méchant, c'est pas un mutant, c'est un humain, c'est William Stryker. Donc le film qui est quand même pas deux fois plus réussi que le premier.
Oui. Ils reprennent l'arc narratif d'un célèbre comics, hein, qui est le Weapon X. Bon, alors soit ça, bien entendu.
Oui, le début et les origines de Wolverine. Qui est plus développé dans Wolverine Origins.
Mais après, voilà, là on commence à, effectivement, ils vont rajouter au lieu de c'est toujours le problème, ils comprennent pas qu'ils sont pas capables d'enlever des personnages. Il y a un moment, ils sont pas capables de tuer des personnages. Bon, ça c'est un problème récurrent de.
Si, au début du 3 quand même.
Ouais.
Mais c'est pas un déchet. Ouais.
Je m'en étouffe. Non, mais ils sont pas capables d'enlever des personnages et ils nous en rajoutent. Ils en ramènent parce qu'il faut de la nouveauté. Mais là, du coup, résultat, on se retrouve avec un iceberg mou du bulbe et un espèce de pyro avec des petites bleuettes entre les deux. Machin, on commence à partir dans les trucs. On a un Colossus qui est complètement inexistant, alors que c'est un personnage hyper important, hyper intéressant dans les BD.
D'ailleurs, il passe son temps en quel but, hein, dans le film.
Oui, torse bien sûr.
Enfin, voilà, ça, enfin, on fera une petite intro sur.
On y reviendra, on y reviendra.
Ouais, ouais, on peut revenir.
Mais
aussi,
Alors, moi, j'avais une question, puisque j'ai préparé quelques questions plus ou moins débiles de côté pour essayer, cool, pour essayer d'aller mettre le doigt sur des cœurs de problèmes. Est-ce que vous pensez que. Alors, question très très pertinente et très profonde, est-ce que vous pensez qu'Iceman est plus fort que Sub-Zero?
C'est une bonne question. Je sais pas si vous avez eu la bande-annonce du prochain Mortal Kombat, mais Sub-Zero il envoie du pâté.
Le prochain Mortal Kombat en jeu,
ou en, jeu en jeu.
Ah oui, il y a plus de
en jeu. Non, il y a oui, plus. Non, mais ça, ils ont décidé d'arrêter.
Mais je pense que. Il est plus fort, Sub-Zero.
Alors non, bon, pour moi c'est Iceberg qui est largement plus fort que tout le monde. Là, dernièrement dans les comics, je sais plus exactement lequel, il a commencé à fondre un plomb un peu et à se dire qu'il était toujours le second couteau et qu'il en avait marre. Et il s'est un peu énervé et en fait il est capable d'atteindre la taille d'un immeuble en, potentiellement à Iceberg, à se mettre tout en glace et à se diviser en clone de machin. Je pense que là Sub-Zero il va se faire éclater très très vite.
Que l'on ne verra jamais dans un film de Bryan Singer. Mais on
Non, Sub-Zero il est associé à la franchise DC.
Non mais je parlais le truc de ah oui, il se met gros comme un immeuble. C'est trop fou, ça.
En plus il devient complètement vénère, il agresse les X-Men et tout, enfin etc. Voilà, il y a plein d'histoires sur les X-Men qui sont hyper intéressantes.
Non, mais ça, c'est bien.
C'est les arcs autour de la grosse histoire, comme toujours. C'est là où il y a des vrais auteurs qui ont des vraies idées et qui vont vouloir pousser un peu le concept.
Non, mais ça, c'est là, bien. Les mutants gentils qui pètent un câble, après finissent qui envoyaient du feu en tuant ses amis. Maintenant, c'est un gars qui envoie de la glace en tuant ses amis. C'est bien.
Voilà, c'est ça.
C'est cool.
Mister Freeze.
Ouais. Alors que si on regarde, là, c'est bien parce qu'on voit bien le parallèle, comme je disais, de la manque de prise de risque. C'est-à-dire que là, dans la BD, il fait ça. Puis dans le film, oh bah super, il refroidit des bières quoi. Donc oui, c'est super utile. C'est vrai que c'est d'avoir une équipe de,
moi je veux
de super héros. Donc,
bières,
donc t'as Pyro, il t'allume le barbuck, l'autre il te refroidit
les bières. Et le cigare de Logan.
Voilà, bah, et le cigare de Logan. Logan
il coupe la bouffe.
Voilà, il coupe la bouffe. Franchement, super les gars. Quelle ambition.
Ouais, t'as Mister Fantastic qui va chercher les bières dans le frigo directement.
Bah ok, pour résumer, donc les trois premiers.
Attends, on n'est pas encore aux trois, malheureux.
Ouais,
alors,
mais je pense
c'est bon, on a enquillé les deux premiers.
Le troisième, je pense qu'on peut en parler vite fait, quoi.
Le 3, il faut en parler, oui, parce que c'est, on va rigoler là.
Non, je voudrais
quand même juste dire que la scène d'introduction de X-Men, elle est géniale et que le film ne dépasse jamais sa scène d'introduction.
Oui, c'est et en fait, l'assaut de Diablo dans les couloirs de la Maison Blanche, qui fonctionne d'autant plus parce que c'est bien monté au niveau visuel, mais c'est surtout parce qu'on voit. À un moment donné, on voit plus rien. C'est-à-dire qu'on voit à travers les gardes du corps du président, et puis on entend juste du son derrière la porte de la maison du bureau ovale.
Il y a une vraie mise en scène.
Et c'est là parce que Singer a réussi à retrouver ça un petit peu dans l'intro du Days of Future Past avec cette fameuse séquence où avec Bishop. Sauf que la scène avec Diablo était mieux parce que justement on exploite le potentiel cinéma avec ce qu'on ne vous montre pas et ce qu'on entend avec le son. C'est pour ça que tu nous disais en préparant l'émission que ça a été fait par la seconde équipe.
Je reste persuadé que ces plans-là, que enfin vous le voyez en tant que spectateur, on voit bien que c'est, dans le dernier film, c'est ça. Hein, on sent qu'il y a des moments à part. Il y a des scènes qui ont été greffées, et c'est typiquement ce qui est fait par une seconde équipe. Hein. C'est exactement ça, quoi. Donc venons-en au troisième.
Alors le 3, donc le
entièrement réalisé par les secondes équipes.
Voilà, donc
mauvaises équipes.
Donc Exit Bryan Singer qui est passé à l'ennemi, réalisé son Superman Returns à la place.
C'était une très très mauvaise idée ça aussi. Hein.
Alors intéressante quand même la jeunesse de ce X-Men 3 qui est un film malade, hein. C'est-à-dire que à la base on devait avoir Singer, donc Singer décide de passer chez DC pour réaliser son rêve de gosse, c'est-à-dire son Superman. On a vu ce que ça avait donné, désolé Thomas.
D'ailleurs en préparant le
moi aussi j'aime bien quoi, désolé.
Bon désolé du sport alors.
C'est normal, on est allés ensemble. Mais ceci
ah bon
ouais, non, ce, non. ceci dit si Ici. Ceci dit, Singer, c'est marrant, t'en rappelles pas. Singer disait en préparant les X-Men, il disait qu'il était pas fan de comics à la base. Hein. Donc sur son rêve de gosse, hein.
Oui, bon, voilà. Alors excusez-moi. Alors il a réalisé son rêve hollywoodien, c'était de réaliser.
Voilà, donc il passe à l'ennemi.
Voilà,
en attendant, il y a un gouffre.
Donc là, ils ont quand même un petit nouveau en vue, hein, qui a du potentiel, qui est Matthew Vaughn. Donc ils impliquent Matthew Vaughn.
Donc à l'époque, qui avait fait Layer Cake déjà.
Qui a fait Layer Cake et qui était producteur de Snatch. Donc il était vraiment sur la nouvelle garde, on va dire britannique. Donc avec une vraie vision. Donc il commence le casting. Comme dans Day of the Future Past, donc il commence un petit peu à scénariser, et hop, au revoir Matthew Vaughn, Donc voilà, on ne sait pas pourquoi. Pareil, il s'est barré avant que la crise, parce que la production est lancée, il faut trouver un réalisateur immédiatement.
Yes Man.
C'est qu'on appelle ouais, des Yes Men. Et yes un man. Des pires Yes Men qu'on peut avoir, parce qu'il y a du bon comme Jules.
Ah, on peut en citer ouais. Richie de Happy Days.
Oui,
Ron Howard.
Ron Howard.
Chris Columbus.
Joe Johnston, qui a été un Yes Man sur Captain America et qui est un honnête artisan.
Oui.
Et donc, du coup, dans le pire cas de figure, on va avoir Brett Ratner. Donc,
Crush
je
Hour,
ne sais pas très bien ce film. On pourrait pas faire de pub.
Crush Hour 1, 2, 3.
Bon, voilà, bref. et du coup, ben, qu'est-ce que ça fait? Bon, on peut pas dire qu'on ait le temps de réfléchir en regardant le film.
Mais on comprend rien.
Et puis, alors, lui, bon, là où les autres, comme tu disais, éliminent des gens. Alors, il y a des gens qui font ça. On au premier, on fait un peu n'importe quoi.
Il y a des gens qui meurent, d'autres qui en rajoutent 100 alors qu'on en supprime 2.
Et le production design, mon Dieu, mais genre, j'ai encore
donc le fauve maquillé comme un schtroumpf hein.
Maquillé comme un schtroumpf avec son costard, ok, dans les comics des années 50 il était pareil, mais c'est pas une raison pour faire ça dans les années 2000 quoi.
Ah non, c'est sûr.
Donc le Angel là, qui est complètement une icône pour magazine gay, enfin j'ai rien contre les gays, attention, mais c'est vrai quoi, il passe son temps torse nu avec des ailes comme ça. Papa oh mon Dieu, bon bref, c'est horrible. Donc voilà,
le non, mec, il est chassé par son père au début du film et à la fin il le sauve.
Oui,
ce qui
oui.
fait dans le film quand même hein.
Voilà, exactement,
ouais,
voilà.
Ouais. Il n'y a pas grand chose à retirer de
oui,
film,
malgré
vraiment,
le fait quand même qu'il surfe sur un arc
qui est
vraiment costaud, voilà, qui est le Phénix Noir, quoi.
Oui.
Donc c'est pour ça que le film, il est quand même regardable.
Phénix Noir annoncé à la fin de X-Men 2, hein, si
oui,
vous vous rappelez,
dans,
avec
ouais,
ce
ouais.
magnifique plan sur l'eau, quand même. Il y a quand même des plans sympas chez la seconde équipe,
ouais.
hein. Donc celui-là était pas mal. Donc c'était annoncé. Donc grosse attente, on va dire, hein, pour tout le monde à l'époque, hein, et grosse déception. Quand même, le mec, je crois que c'est celui qui a le mieux marché.
C'est celui qui a le mieux marché.
Voilà.
Mais parce qu'on a aussi les gens qui commencent à s'habituer à se dire que c'est cool les super-héros, etc., et qui vont commencer à vouloir. Puis la production et tout le système hollywoodien commence à mettre de beaucoup plus de sous là-dedans, et donc on a de la grosse promo, etc., et ça attire de plus en plus de gens.
Alors après cette série
moi
originale,
j'avais juste avant d'enchaîner avec le reste et un petit morceau musical, j'avais juste encore une queue. Il sort où elle était.
Oui. Cinématographe.
Oui.
Ils savent pas quoi en faire. Je veux dire, c'est ça, c'est chromatique. On a 6 films.
Alors déjà dans les 3 premiers. Donc dans le premier. C'est dans le 2 qu'il s'est piraté malade parce qu'il y a Mystique qui introduit une substance noire dans Cérébro.
Oui,
dans le 2, il se fait manipuler par le fils de Stryker.
Voilà.
Dans le 3, il se fait atomiser par le Phénix.
Sur moi, c'est réglé.
Voilà. Voilà, et dans le Days of Future Past, le retour de Singer, donc il est bon qu'à attendre qu'il y ait un gars qui lui crame la gueule.
Il est complètement gâteux.
Donc c'est officiel, Singer ne sait pas quoi faire du professeur Roulette.
Non, mais en plus,
on y reviendra sur le dernier film, quoi.
Non,
mais Xavier, de toute façon, il faut bien préciser que même dans les BD, c'est un personnage qui, ne participe pas directement à l'action. De toute façon, il est toujours cloué sur son fauteuil. Le fauteuil a évolué, c'est vrai. Au départ, c'est un truc à roulette et tout. Alors, moi, j'ai bien aimé dans le film, hein, le film qui a été affiché en ce moment, le vieux fauteuil des années 60, recouvert d'une espèce de truc nylon, je sais pas quoi. Enfin bon, d'accord. Là, ça m'a vraiment parlé. Et après, bon, bah, c'est vrai, quoi. Le truc qui marche sur onde magnétique, enfin bon, qui touche pas le sol et puis que, bon, ça se déplace tout seul. Là, ok, mais c'est ce qu'on retrouve dans les BD. Hein,
dans les BD, il a un côté un peu psychopathe aussi dans les BD, parce que tu sens que si à un moment donné, s'il peut dériver grave et péter un boulon, on voit qu'il peut cramer l'humanité tout seul. Alors que dans
bien
le film, il est canonné question dans le 2, mais.
Il y a tellement de choses très intéressantes à faire avec lui. Par exemple, dans tous les trucs Ultimate, ils ont énormément de données. Ils se demandent où il se trouve dans l'école Xavier, et ils se demandent si. Et s'il n'influence pas.
Le côté Big Brother.
Le côté
peu,
Big Brother,
parce
qu'il est capable d'influencer en plus, de remplacer leurs souvenirs, etc. Donc voilà. Après, Xavier est principalement l'autorité morale du bien chez les X-Men, en fait. Du bien chez les X-Men, c'est ça en fait, et c'est son principal intérêt. En fait, c'est sa principale fonction dans les, que ce soit dans les comics ou
c'est
dans
pas
les...
l'autorité morale, on va dire, hein, dans l'ensemble des X-Men. Hein. C'est, on va dire, la pierre angulaire qui définit justement la différence entre le bien et le mal. Ouais, parce qu'il y a des moments où il part en couille, hein, on va le dire franchement, quoi. C'est pas tout le temps, quoi, le type qui est la référence absolue, quoi. Mais c'est vrai que dans l'univers des X-Men, la façon qu'ils ont de fonctionner, quoi, c'est vrai que il a cette part qui est très importante, sauf en cas de défection de l'un ou l'autre des membres des X-Men, bien sûr.
Dans la BD des New X-Men, il avait une sœur jumelle vieille aussi.
Alors c'était clairement ça encore, flippé, je crois, qui était revenu et qui avait refait tout un arc absolument fantastique. Où on se rend compte qu'il avait une sœur jumelle une sœur jumelle du coup qu'il a bouffée avant sa naissance. Je crois que c'est ça, c'est ça. Une histoire comme ça. Et elle revient en fait se venger, sauf que c'est la version vraiment hyper méchante de Xavier des pouvoirs.
Et donc on finira sur le 3 en disant que la scène post générique du 3, on voit que il s'est transposé dans son frère jumeau qui était mort cliniquement.
Il y a une scène post générique. Pas 3. Non mais honnêtement, je suis pas allé jusqu'à la fin du générique X-Men.
Ben en fait, on va te faire la découverte. Tu expliques, Corentin.
Non, je suis pas sûr que ce soit la bonne auquel je pense.
Et ben la scène post générique du 3. Donc ouais. Le dernier plan officiel du film, c'est Magneto qui a perdu ses pouvoirs et qui arrive à faire bouger un petit peu la pièce d'échecs.
Oui, mais ça je l'ai vu, ça c'est la dernière scène.
Et après le générique, dans le film, tu vois qu'il y a Professeur Xavier qui parle à son assistante et qui parle aux élèves en disant on pourrait transposer notre conscience dans le corps de quelqu'un d'autre.
Et à la fin,
on voit MacTaggert, Moira, en train de prendre soin de ce corps-là, et puis le gars se réveille avec la voix de Xavier qui lui dit bonjour Moira, Charles.
Fini comme ça. Putain, du coup ils ont tué le vieux, mais il est toujours là, quoi.
Et bref,
ça montre bien aussi que ça, il faut le dire quand même, parce que Professeur Xavier, c'est comme tu disais, c'est la pierre angulaire. Et ça, chez Fox, ils l'ont bien compris. Donc ils te le refourguent dans tous les X-Men
en plusieurs versions,
avec
plusieurs...
des maquillages.
Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, il est censé tout savoir, mais dans chaque film, il oublie tout ce qu'il a vu dans les films précédents. Oui. Donc en fait, il y a aucun lien, quoi. Donc ça, c'est quand même le gros bordel.
Oui, puisqu'au début du 1, il se demande d'où vient Logan. Et dans le Wolverine Origins, dit tiens, j'ai croisé Logan avant, mais j'ai oublié.
Il a croisé tout le monde. Ouais, il a croisé Cyclope. Il a croisé tout le monde. Il a même croisé Spider-Man, je suis sûr, à un moment donné. Et il se souvient de rien, le mec, quoi.
Allez, petite coupure avant d'entamer les préquels. But you just can't win. But you just can't win. But you just can't win. But you just can't. You just can't win. But you just can't win. But you just can't win. No, you just can't win. No, you just can't. We'll be right back.
but you just can't win. Said you just can't win. No, you just can't win. Said you just can't win. No. Oh. Oh. Yeah. You can't win. Just can't.
Je peux vous dire que ça discute sévère dans les studios de Radio Éphémère 89.1 MHz. Vous écoutez le supplément week-end. Juste avant, bah, c'est un mec qui est rescapé des années 60. Bon, bah, c'est franchement sol, il n'y a rien à dire. Mais par contre, le disque sort ce mois-ci. Il a enregistré ça avec des petits jeunes. Et le type s'appelle, je ne sais même plus comment il s'appelle.
D'accord, ça c'est du. Ça,
Lee
c'est...
Fields, voilà, ah, Lee Fields. Voilà.
Ah.
Ok. Bon, alors on passe vite fait sur les.
Les deux Volvi.
Oui, les Volvi et puis les espèces de trucs là. Il y a eu même eu des trucs, je crois, en plus quoi.
Des trucs en plus dès que les Volvi. Pas sûr.
Non, on a eu les Volvi.
Non, il y a après il y a les First Class.
Non, il y a les First Class.
Ouais. Voilà.
Alors Volvi. Alors moi, il y a un truc, un regret que j'ai, c'est que normalement Wolverine, c'est un gros sociopathe dans les BD qui quand même quand il se déchaîne, c'est une vraie machine à tuer. Ouais, ouais. Et même dans le. Alors moi, j'ai pas vu le Volvi au Japon, mais le premier origine de Gavin Hood, plus la trilogie de Singer, plus les First Class, on retrouve jamais un Volvi qui est vraiment énervé.
Parce que c'est pas vendeur. Au début du premier X-Men, un peu, où il est un peu.
Mais oui,
vénérisme,
ouais, alors ça, c'était bien, par contre. Voilà. Le combat dans la cage et le côté, me parlez pas, je suis mauvaise humeur, ouais.
Mais ils en ont fait un Boy Scout, clairement.
Mais c'est clair. Il est apprivoisé, c'est un petit cabot, quoi.
Après, ça peut se comprendre, hein. On est dans un univers cinématographique, c'est un art qui se vend, donc, on peut pas non plus, quand t'as des budgets si. Parce qu'on parle de centaines de millions de dollars, hein. Donc tu peux pas miser ça sur un anti-héros antipathique. Et regarde ce que ça donne avec Snake Plissken. Donc la fois où il a eu un gros budget, John Carpenter, le film il a coulé quoi. Ça s'appelait Los Angeles 2013.
Oui, en même temps, il était pas obligé de faire un remake non plus plutôt qu'une suite.
C'est un autre débat, mais ça marche pas très bien pour le grand public. Hein.
Ceci dit, c'est vrai que c'est là qu'on voit que c'est un gros ratage le premier Volvi, puisque dans Stryker dans X-Men 2 lui dit, tu sais quand on t'a mis l'adamantium sur ton squelette, tu étais déjà une bête. Et c'est oui. Bizarre que tu aies perdu la mémoire. Et pour au lieu d'exploiter ça en disant voilà il a changé parce que dans tout le Volvi il serait un bad guy un peu pas fréquent. Et tout, non, il est déjà gentil à la base.
Ouais. C'est très dommage parce qu'il y a quelques trucs de très bien quand même dans le Wolverine, mais on en arrive à un. Je veux dire, si on prend que les scènes qui sont bien, on a un quart d'heure de film, quoi.
Ouais, tu veux
on
dire la partie à l'antagonisme avec Dent de Sabre.
Voilà, avec Dent de Sabre, on a un très bon Gambit qui arrive. On a un Deadpool au début qui est.
Ah, il est pas mal, hein, il est charismatique avec son épée. Hein.
Voilà, qui ressemble vachement en plus au personnage de la BD qui est très. Qui balance des blagues tout le temps et qui est complètement ailleurs et ils nous le foutent en l'air comme des sagouins.
Ah oui,
et en faisant n'importe quoi. Attends, vraiment n'importe
finit,
quoi.
Il finit zombie ninja
téléporteur avec des lames dans les mains, voilà, donc c'est ça commence
et
vraiment
par et contrôlé par un Windows 95, ouais. Voilà, donc c'est vraiment n'importe quoi.
D'ailleurs, Deadpool donc qui n'est plus joué par Ryan Reynolds à la fin en ninja, mais qui est joué par Scott Adkins.
C'est génial, j'adore Scott Adkins. C'est génial, je savais voilà. Pas, tu me l'as appris. C'est génial.
Donc voilà, donc on est voilà, tu vois, du sport, on est passé sur Wolverine 2 Gavin Hood.
Il y a rien d'autre à en dire, hein. Le reste c'est quand même de la merde.
Quelqu'un a vu le combat de l'immortel ou pas?
Oui.
Et ben non. Non plus.
On a pourtant tout l'arc dans les BD de Wolverine au Japon est hyper important pour sa construction personnelle. Il trouve une femme, etc.
L'arc
voilà.
De Miller, hein, c'est ça, Frank Miller, hein, qui est derrière.
Frank Miller l'a oui. Fait. Ouais. Ça a été Frank Miller. Ça a été aussi rappelé par plein d'autres mecs après. Et ils en font une balade au Japon, quoi. C'est un peu Tintin au Japon finalement. C'est Wolverine qui va là-bas. Bon, il y a des samouraïs, etc. Il y a plein d'incohérences dans tous les sens. Vraiment, il y a des trucs complètement hallucinants. On en garde quoi, deux trois scènes un peu badass, un peu classe. Mais après, pourtant, on arrive quand même au Wolverine qui revient avec ses griffes en os, qui est quand même un traumatisme énorme dans la BD à une époque où en plus on a Cypher qui lui pète les griffes d'une main, ça a été quand même un traumatisme pour les lecteurs à cette époque-là, etc. Et là, voilà, il a perdu son adamantium, mais bon, il peut encore se battre avec, ça lui fait pas trop mal. Bon, c'est
le seul point positif en fait de ces standalone hein, sur Wolverine, c'est que je trouve que capillairement, il ressemble de plus en plus au Wolverine de la BD. Je parle capillairement, voilà, c'était
le 1, il ressemblait pas mal, il était un peu mal dégrossi, non? Alors ils en ont fait.
J'aimerais bien avoir l'avis quand même, je sais pas moi, d'un Franck Provost ou quoi, qui nous dirait, oui, effectivement, au niveau de la barbe et des pointes.
Qu'on appelle un de ces quatre une consultante cheveux pour
voir la mission. Donc on va dire que c'est validé quoi.
Voilà, et non, sinon ça a été quand même ça a permis à Hugh Jackman de se payer des sacrées séances de muscu, vu que depuis là il est devenu carrément, c'est pareil, il est à deux doigts d'éclater le mec dans le dernier dernier X-Men.
Ouais, mais
dans le dernier ils l'ont remodelé quoi, ouais, graphiquement quoi, quand même quoi, parce que là
il y a une scène où on verra après, mais il y a une scène où il est tout nu quand même.
Oui
ah ben toujours bien sûr, Singer oblige. Et donc du coup, attends, c'est quand même par accord du coup, non, avec les premiers X-Men, parce que moi toi tu l'as revu hein, le premier X-Men récemment.
Oui.
Il fait palichon hein, quand même à côté. Bon bref, c'est le cinéma, c'est comme ça.
Sans compter le truc où du coup Wolverine dans le premier Wolverine il sauve Cyclope etc, et après ils connaissent plus dans le X-Men 1, en fait ils connaissent pas, ils le rencontrent pour la première fois,
mais ils connaissent pas non plus son propre frère, donc c'est...
Donc bref,
il y a des incohérences hallucinantes.
Alors sinon, oui, on est tous d'accord sur le dent de sabre version Wolverine Origins, qui est mieux que le.
Oui, bien sûr.
Au niveau du look et tout.
Schreiber quoi. Ouais.
L'acteur
Schreiber,
bon,
de toute façon, est fantastique dans tout ce qu'il fait. Je vous conseille d'ailleurs Goon, qui est un très bon film canadien où un des rescapés d'American Pie fait une espèce de Brutus qui sait rien faire de sa vie, et il découvre que en fait il peut faire du hockey sur glace, parce qu'il a juste besoin de se bastonner. Et là arrive en face sa némésis, qui est Liv Schreiber, qui fait le gros bastonneur de la ligue canadienne de hockey. Et là on a eu, c'est une très bonne comédie assez tendre, qui est vraiment fantastique.
Et donc c'est la version de Dodgeball, mais
Ouais, pas vraiment.
Ouais,
hein.
Ouais non. C'est
pas trop quoi.
Moins débile. Ouais. C'est quand même moins débile.
Donc on l'aura compris, Thomas. C'est juste après donc ces deux Wolverine, c'est le bordel. Il est
alors on rappelle les dates. Donc X-Men 3, c'était en 2006. X-Men Origins Wolverine de Gavin Hood, c'était 2009. On a le X-Men First Class, donc on va après le 11. Donc c'est 2 ans après le premier X-Men Origins, sachant que le deuxième Wolvie il est sorti cette année quoi.
Ouais.
Donc c'est le bazar, il est temps de relancer la franchise originale.
Eh oui.
Voilà, donc First Class, qui a l'idée de revenir dans les années 60, pourquoi, qui est le décideur, qui décide de ça?
Alors c'est toujours pareil hein. Je pense que de toute façon on peut faire le parallèle avec les comics hein. L'idée c'est toujours quelque part un petit peu rebooter, je pense hein, les persos pour ramener du neuf hein, avec du vieux hein, quelque part, et je pense que toutes les incohérences qu'on a dites hein, au niveau cinématographique, ils en sont un petit peu conscients quand même hein. Donc on a une volonté aussi, parce qu'on va pas non plus lui cracher dessus, on a une volonté de Singer aussi de revenir un petit peu à la base hein. On a les nouvelles techniques hein, qui sont développées, et on a toujours ce Matthew Vaughn hein, qui est dans les parages hein, quelque part hein, qui avait fait le casting du 3,
qui habite dans les studios,
et qui mine de rien il est pas juste producteur de Guy Ritchie et tout, il est aussi associé à une certaine franchise de super-héros, puisque c'est lui qui est derrière les Kick-Ass.
Voilà, et en plus derrière il commence à se faire un nom aux États-Unis hein, parce qu'il fait notamment le premier Kick-Ass. Bon après il fait je crois que c'est Starlight aussi hein, qui est un film c'est un petit peu un legend moderne hein, un conte de fées plus quoi, qui était pas mal torché. Donc le mec est un peu bien assis maintenant au niveau hollywoodien, et il a le temps. Donc et on lui propose du coup ce First Class, sachant que Bryan Singer est loin quelque part ailleurs, donc il a les coups des franges pour faire ce qu'il a envie.
Et Bryan Singer, il est obligé par contrat de faire Jack le chasseur de géants chez studio, je sais plus lequel c'était. C'était à Warner,
c'était un super film aussi. Ouais. Donc du coup, voilà, donc Matthew Vaughn a les coups des franches, et pour une fois, enfin je vais le dire vraiment, hein, sur cette saga cinématographique, pour une fois, on a quelqu'un qui reprend la base de ce que disait du sport tout à l'heure au niveau des comics, qui décide d'intégrer les mutants dans un contexte historique et de broder quelque chose et de prendre le temps de travailler les personnages comme Magneto et de revenir vraiment à la source. Et Xavier est plus totalement gratuit, on sait ce que... Et on sait, voilà, chacun des personnages a vraiment une storyline intéressante dans ce film. Pour moi, c'est vraiment en termes narratifs, il est très bien. Et visuellement, on a vraiment quelque chose d'intéressant, quoi.
Et puis en termes d'interprétation, on a intéressant. Et puis en termes de génération d'acteurs aussi.
Et on a une vraie musique. Je veux dire, Magneto, je sais pas si vous vous souvenez de First Class, les autres, on est incapable de citer plus ou moins le thème. On a vraiment des vrais thèmes pour les personnages. Il y a une vraie empathie pour Magneto. C'est pas seulement le méchant. C'est pas seulement le méchant. Mais
ah non, là,
trop.
On voit qu'il a bien dérouillé dans le camp de concentration. On voit qu'il
c'est
a.
C'est un vrai anti-héros. Et avec un vrai putain de casting. Donc là, pour le coup, chacun des personnages a un vrai acteur derrière, quoi.
Encore que je trouvais que McAvoy, qui joue donc le jeune professeur Xavier, était un peu en retrait sur ce First Class là, qui était un petit peu bouffé par Fassbender aussi, mais c'était aussi les rôles qui étaient
pas évident aussi
vu
le charisme du mec en face.
C'est bien pour ça qu'il s'est lâché sur le dernier.
Et je tiendrai à noter qu'il y a aussi dans ce film là une petite réponse, c'est assez rigolo parce que je sais pas si on l'a vu, donc tu disais tout à l'heure dans le premier X-Men, ah oui, les costumes jaunes, etc. Et ben lui, merde, il les impose, les costumes jaunes, et ils ont plus de gueule que les espèces de trucs matelassés en cuir qu'on se tape dans tous les autres X-Men, quoi.
C'est vrai qu'après les avoir revus, c'est vrai qu'il y a un côté pas sadomaso, mais un côté un peu tendancieux.
Il y a un côté SM, mais et aussi, je veux dire, Magneto, bordel, moi je retrouve le Magneto du comics avec un vrai casque, une vraie tenue, il en impose, et un origine, l'origine du casque, un vrai méchant, je veux dire Kevin Bacon, il est énorme. Toute son équipe derrière, je sais plus quel est le nom de cette équipe qu'il a, Kevin Bacon, ça, c'est les quatre quelque chose. Bon, je pense que il y a certains
Matt Frost, t'as qui d'autre dans son équipe
Oui, c'est une sorte de société secrète.
Et t'as tout un
production design très James Bond, très rétro-futuriste. Pour moi, visuellement, c'est un régal. Et Kevin Bacon, il écrase tout en tant que méchant.
Il porte mal le casque. Par contre, mais bon, ça,
et du coup, on dit souvent qu'un bon super héros ou un bon héros, il faut que derrière, pour qu'il existe, il ait un vrai méchant. Et là, du coup, il y a un vrai rapport de force. Et on va dire que même thématiquement, il trouve quelque part une figure paternelle, Magneto. Il y a vraiment sous-texte.
Et là, on voit l'antagonisme entre les deux, malgré le fait qu'ils soient les meilleurs amis du monde. Après, le seul petit défaut que moi j'y vois, c'est vraiment à la fin, ils ont essayé en un seul film de rattacher à l'ancienne trilogie avec justement le fait qu'ils se prennent la balle dans la colonne. En même temps, on voyait qu'il reste 5 minutes, il faut absolument qu'on rattache.
Il était obligé d'en parler, ça pouvait pas finir autrement.
Pas dans un deuxième film.
Je suis d'accord avec toi, il y avait du potentiel pour le mettre dans
sûrement
un deuxième film.
Après, est-ce que c'était dans les cartons, c'était un coup de poker et aussi ils savaient pas non plus comment ça allait réagir derrière. Moi, après, ce que je trouve vraiment intéressant, ce que t'as dit, c'est que pour une fois, tous les personnages ont une vraie histoire. Mm-hmm. Et tous les personnages, même les personnages les plus secondaires, comme le mec qui s'adapte, etc.
Ouais.
Ils ont une vraie présence, ils ont leur place et ils sont creusés quand même.
Et t'as de l'empathie. Ouais. C'est-à-dire qu'en Darwin, là, c'est celui dont tu parlais.
Oui, voilà, Darwin.
Qui, comme tu dis, un dixième rôle, un dixième personnage, t'as, je veux dire, quand il meurt, c'est quand même PG-13, attention. Ouais. C'est PG-13, mais je te raconte pas. Quand tu vois arriver Kevin Bacon avec la présence, etc., sa mort, elle est fondatrice de plein de choses et t'as une vraie empathie sur le truc. Tu dis, ah ouais, effectivement, les X-Men, ils peuvent dérouiller, quoi. Et du coup, voilà.
Surtout que là, en plus, tu vois le côté un peu sans défense de ces gamins, en fait, qui ont été recrutés un peu à la va-vite.
Ouais.
Tu as également, justement, malgré la vénération que j'ai pour la mystique version Rebecca Romijn-Stamos, qui est indépassable, mais franchement, je le dis ici, qui est indépassable.
Mais sauf qu'à côté, t'as une actrice, du coup, pour le coup.
Il a raison.
Voilà. C'est vrai.
Maintenant, on perd la plastique, mais on gagne une actrice.
On gagne une actrice qui est capable de faire, du coup, toute cette histoire avec Xavier, qui est hyper intéressante pour le coup.
Mais qui est son sœur adoptive, demi-sœur.
Voilà, ouais. Et du coup, qui augure énormément de choses pour la suite des histoires, quoi. Et puis, on a une trahison, on a des trucs,
Il y a une vraie mise en scène, il y a une vraie proposition de cinéma. Ouais. Je veux dire, on retrouve, il fait quand même des références qui sont bien digérées. Tu retrouves du split screen de Palma. il y a quand même oui, une vrai. Volonté oui. De réaliser quoi.
Une version, pas... un côté OSS 117.
Alors que chez Singer, moi ce que je reproche, c'est une volonté d'emballer un produit quoi. Là il y a un produit certes, mais il y a une vraie réalisation, il y a une vraie proposition de cinéma quoi.
Après la coupure musicale, il n'y a pas de pub sur la radio, n'importe quoi. Vous êtes toujours sur Radio FMR, c'est toujours la spéciale X-Men. Donc après le morceau, on parlera de Days of Future Past et également des petits à côté concernant le bonhomme Bryan Singer, parce qu'il y a beaucoup à dire. Restez après ça.
Toujours Radio Éphémère 89.1 MHz. Alors off the record, je commence à instiller le venin dans la plaie concernant le film qui est encore à l'affiche au cinéma en ce moment, X-Men Days of the Future Past. Alors on va revenir un petit peu à ce fameux double épisode qui signait la fin de la première partie, première participation de Claremont et Byrne dans la bande dessinée. L'histoire est sensiblement la même que dans le film. Hein, c'est une histoire où quelque chose va dans le futur créer l'extinction totale des mutants, ou du moins leur contrôle, très très dur. Et donc pour empêcher cela, il faut empêcher qu'un certain sénateur puisse déposer un amendement et faire adopter cet amendement concernant une loi anti-mutant. C'est un sénateur qui s'appelle Robert Kelly, Bolivar Trask, dont il est question dans le film, est également dans cet épisode, mais lui n'est que le fournisseur des sentinelles. Il n'a aucun rôle politique actif dans l'épisode du comics.
Donc Robert Kelly, le sénateur, c'est celui qu'on voit dans le X-Men 1. Et il faut savoir que c'est le gars qui se transforme en espèce de mollusque et qui fond en liquide. Et Bolivar Trask, il est dans le 3, c'est le Black qui autorise l'utilisation des seringues anti-mutants pour vaincre les mutants. Il est déjà dans le 3 en fait.
Quelle cohérence. D'accord. Donc de prendre après cohérence, un 1 pour jouer. ça c'est une cohérence.
Tout à fait. Alors donc le problème est posé. Il faut le résoudre, et pour le résoudre, il faut que quelqu'un du futur revienne dans le passé pour empêcher ce qui se passe. Et ce quelqu'un, bah, dans la bande dessinée, c'est pas Wolverine du tout, du tout, du
Bishop,
tout, c'est Kitty Pryde.
Ah non, c'est Kitty Pryde.
C'est Kitty
Pryde. Dans la série animée, c'est Bishop.
Alors, je vais y venir.
Ah, pardon,
Bishop,
pardon.
Quoi. Kitty Pryde, donc, qui fait la, qui ne s'appelle plus Kitty Pryde dans le futur, qui s'appelle Kate, mais enfin bon, ça c'est pas trop grave, quoi. Et qui donc, va qui essayer planté, de convaincre, justement, quoi, le professeur Xavier et tous les autres. Là, c'est quand même relativement fidèle à ne pas tuer, justement, à essayer d'empêcher Mystique de tuer, justement, quoi,
Trace,
le,
le,
non,
sénateur,
pas Trace, le sénateur, hein, le sénateur, hein, pour que ce ne soit pas, quoi, justement, quoi, le déclencheur, justement, quoi, de cette loi qui serait une loi qui, bah, à terme, décimerait tous les mutants. Voilà quelle est l'intrigue originelle. Et dans le film, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a Wolverine qui va remplacer Kitty Pryde. Alors, on va tout de suite parler des trucs qui fâchent. Enfin, du moins, ce qui me concerne. Déjà, je me suis dit, tiens, Bishop, j'étais pas trop au courant de ce personnage. J'avais quand même une petite idée de qui il était. Et puis bon, en faisant des petites recherches, ben, on s'aperçoit que Claremont Byrne, Days of the Future Past, 1981, et un certain Bishop, créé soldat qui vient du futur, du 21e siècle, créé en 91. Donc oui, déjà là, il y a un petit truc qui va pas trop bien, on va dire.
Bishop est devenu quelqu'un de, d'assez important après dans les X-Men où effectivement il venait de cette
dans,
de,
les
de
X-Force, ce, dans les X-Force
etc.
Avec Cable et tout, quoi, on va dire, parce qu'au départ, quoi, c'est quand même le type qui est l'alter ego, pas l'alter ego, quoi, mais enfin qui est le contraire de Cable, quoi. Cable, c'est quand même le type qui vient du futur, quoi, mais qui vient pour sauver les mutants, quoi, parce qu'il sait que peut-être les mutants vont être exterminés parce que lui il l'a vu et tout, enfin tout bordel, quoi. Alors que Bishop, lui, c'est plus un mercenaire, on va dire, un mec qui a à la solde de pratiquement tout le monde et tout, et qui se fight contre Cable, contre les X-Men, contre tout le monde et tout, avant de rejoindre plus ou moins les rangs des forces du bien, entre guillemets. Et encore, bon, il faut le payer, quoi, généralement, quoi. C'est vraiment le mercenaire. Alors bon, justement, là, déjà, quoi, au départ, je me dis, bon, y a un truc qui colle pas, hein. Et bon, c'est con, parce que bon, bah, c'est dans une des séances d'ouverture du film, quand même, hein, qu'on voit ce Bishop qui apparaît,
fiché, en plus,
qui est plutôt bien foutu.
Ouais.
Séances d'action qui sont nickel, qui sont vachement bien. Beaucoup de gens, avant la vision du film et tout, quoi, ont dit, ouais, Omar Sy, bon, ouais, bon, il est pas top et tout.
Oh, ça le fait, il a pas beaucoup de dialogue.
Il a pas beaucoup de dialogue, il y a pas de problème, quoi.
Son personnage est inexistant. On retombe dans les travers.
Ouais.
Son personnage est inexistant, comme certains autres, qui sont également dans la même, enfin, dans le futur, quoi, tel que Iceman, quoi.
Oui, voilà.
Qui est là juste pour fighter, quoi, en fait, quoi, mais là, juste pour fighter, quoi, en fait, quoi, mais bon, sinon pour le reste, laisse
alors,
tomber.
Ouais, bon, en même temps, même ce que toi, tu dis sur Omar Sy, tout le monde aurait pu faire ce qu'il fait dans Bishop, quoi.
Bien sûr.
Bah, tu prends un Black qui est costaud, qui fait 2 mètres, c'est pareil.
Non, oui, il a une présence quand même.
Oui,
on peut
oui,
pas
oui,
lui
oui.
enlever ça, faut arrêter.
Non, tu prends Christopher Judge, c'est pareil.
Ils sont méchants.
Non.
Coco,
tu prends,
quand
tu prends Idris Elba à la place.
Ah, mais oui, mais voilà, vois, par contre, ça fait grimper le budget, là.
Tu vois qu'il y a vachement de différence entre le jeu d'Omar Sy et le jeu d'Idris Elba.
Oui, mais sauf que Idris Elba, je
parle pas de qualité. Je ne parle pas de qualité, hein. Je dis qu'il y a une différence, point à la ligne.
Ouais, c'est clair. Et on parle même pas de Michael J. White, hein. Tu vois, tu pourras avoir le bas du panier, tu vois, le Black que t'as partout, quoi. Enfin, alors Michael J. White, hein, je replace un Spawn, le film.
Oh, merde, oui.
Entre autres.
Et quelques cigales aussi, pour la classe.
Ah, très bien.
D'accord.
Non, mais bah, alors, moi, sur ce Days of Future Past, déjà, le titre me fait beaucoup rire, ça fait vraiment James Bond, les titres qui vont, c'est pas ce que ça veut dire exactement.
On parlera du titre alternatif après, hein.
Ouais, j'en ai trouvé, enfin, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais il est bien. Mais on retombe dans un autre des travers des X-Men, c'est cette espèce de feignantise de scénariste, finalement, de comics, qui dit... bon, on a quand même fait pas mal de trucs. Alors, il y a deux trucs. Et si on les envoyait sur une autre planète? Et si on les envoyait dans le passé? Et là, ça ouvre la porte à tout un tas d'incohérences aussi temporelles, etc., machin, et qui sont les trois quarts du temps, c'est mal fait. Il y a toujours un truc où, à la fin, à la résolution des trucs, on se comprend pas bien comment on revient, à quelle ligne temporelle on revient, qu'est-ce qui est créé, qu'est-ce qui est machin. Et moi, je trouve que tous les arcs narratifs des X-Men avec des retours dans le temps ou des allées dans le futur, enfin voilà, des trucs comme ça, je trouve ça chiant à mourir.
Ah, mais ça, c'est le propre de tous ces films là avec les trucs temporels qui sont jamais,
n'est pas James Cameron qui veut. Bah voilà, le problème c'est que James Cameron l'a fait il l'a fait beaucoup mieux que tout le monde et que depuis on s'empêtre dans des trucs où
alors c'est marrant que vous parliez de James Cameron parce qu'on peut avoir des filiations évidentes entre l'arc de Days of Future Past et la mythologie Terminator puisque ce sont c'est une machine envoyée du futur pour essayer de sauver, pour prévenir
bien sûr.
Sauf que dans Terminator il peut pas revenir dans le futur.
Oui,
et qu'on a pas Michael Bay.
Et sauf que le comics est sorti
bien
un
avant,
petit peu
bien,
avant.
Voilà. Il est sorti
2-3 ans avant.
Ouais, 3-4 ans avant James Cameron, le film de
oui,
Cameron.
De toute façon, il s'en est jamais caché. Hein. Cameron, il a toujours dit que voilà.
Il était associé à Spider-Man à un moment donné. Hein,
oui,
pour,
non, mais je veux dire,
développer.
Sa base à lui, c'est l'un des premiers à avoir utilisé la culture populaire.
Ah oui, oui,
ça,
tout à fait. Oui.
Donc donc Days of Future Past, film malade. Moi, j'appellerais ça film malade. Parce que ce qu'il en ressort, après on pourra faire des petites parenthèses hein, sur différentes choses, ce qu'il en ressort à la première vision, hein, on l'a vu tous ensemble, hein, c'est que ben on a l'impression qu'il y a plusieurs films qui cohabitent à l'intérieur.
Oui.
Donc il y a, on va dire qu'il y a le film de la seconde équipe avec les scènes d'action censées en mettre plein les mirettes et en plus on peut bien les détacher. Hein, je pense que
dans le futur,
sur les lecteurs Blu-ray, on peut refaire des remontages. Je crois qu'on pourra bien sortir les scènes. Hein, donc on va avoir la scène d'intro, on va avoir la scène du nouveau personnage marketé et qui est Vif Argent. Moi je vais le dire en VF hein, parce qu'on est en France. Voilà. Donc tout le monde dira ouais c'est génial, mais ça n'apporte rien. Mais c'est bien, c'est beau. Moi je dis pas le contraire.
Elle est fantastique.
Donc là, on a ce premier film où on sent que la société de production a dit bon là les gars, il y a du Marvel à côté, il y a les Avengers, donc il faut qu'il y ait de la bonne scène d'action. Donc bon, bref les gars, je vous invite à revoir le plan séquence d'action de Avengers hein, et vous regardez bien comment c'est fait. Hein. C'est un plan séquence et il y a 10 mecs qui se foutent sur la gueule et c'est 100 fois plus ambitieux que ce que vous avez fait. Première chose. Donc deuxième film, on a le film de Matthew Vaughn parce que Matthew Vaughn c'est celui qui a rebooté la saga.
Ouais.
Et ben comme sur X-Men 3, ben il fait le casting, il commence à écrire le scénar et puis il se barre. Pour faire quoi? Ben, il a déjà tourné, on en parlera tout à l'heure, hein, il a déjà tourné un autre film. Donc, ce mec-là, il prend la poudre d'escampette dès qu'il sent que ça sent le roussi, et c'était un peu le cas. Donc, on a le film de Matthew Vaughn, et Matthew Vaughn, on va dire que, à l'époque, moi, quand j'avais entendu parler de ce film-là, qui s'appelait pas encore Day of Future Past, hein, il avait pour volonté de remettre à nouveau encore les X-Men dans des contextes historiques avec JFK, etc. Donc, tout le côté années 70. Donc, tu parlais tout à l'heure du fauteuil de professeur Xavier, je pense qu'on lui doit le fauteuil.
Ah bah il y a aussi l'allusion
à la balle magique liée, donc hein. Donc tout ça c'est le film de Matthew Vaughn et puis après derrière eh ben on a le film de Singer où on reprend tout ce qui marchait pas dans les autres X-Men,
les icônes en papier glacé,
le futur moisi alors ça quand même parce que des images du futur on en a eu dans des films hein, des notamment dans la saga Terminator et ben alors là la vision du futur ben un
c'est
peu Nasbrock,
un temple chinois
ça fait un peu série Z. Donc du coup là on a le film de Singer, donc on a quand même, on est content quelque part parce que pour le prix d'une séance on a trois films en un. Et le problème c'est c'est un peu le bazar parce que du coup, enfin moi je vais parler pour ma part, ce film n'amène rien dans le sens où ça ne fait pas avancer les choses.
Mais surtout quand on voit la fin, on va pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais quand tu vois la fin tu dis c'est fait entuber quoi.
Oui.
Ben oui, puisque ça fait du surplace. Mmh. Ça fait du surplace. Ça n'apporte rien, on est d'accord. Alors c'est joli, c'est bien marketé, c'est dans l'air du temps, mais techniquement, quand on ressort de la salle, qu'est-ce qu'on retient? Bon, on retient 2-3 effets spéciaux et
scène de Quicksilver.
Et puis Magneto, il a été tellement bien caractérisé. Par
là, il devient une caricature de lui-même.
Il est méchant, voilà.
Avoir soulevé le pont de San Francisco, soulevé des avions et tout, il soulève un stade.
Et on reprend des storylines déjà vues.
Ouais.
C'est-à-dire que la scène de Vif Argent, ça évoque Diablo. L'intro, ça évoque Diablo. Magneto, qui est enfermé dans sa prison et qu'on va libérer parce qu'il faut faire
ami,
c'est X-Men 2. Donc, il n'y a rien de nouveau. Et le futur, ben, finalement, moi, quand je regarde le futur, bon, ok, je suis pris dedans, etc. Oui, les mutants sont exterminés et puis on extermine les humains. Et puis on a envie de se dire. Mais qui c'est qui est assez débile dans ce futur là hein, parce qu'il y a quelqu'un à la tête des sentinelles pour dire oh c'est génial, la Terre est dévastée, allez renvoyons encore des sentinelles pour détruire le moindre mètre carré. Il manque de caractérisation. Même le personnage de Trask, ok, il crée les sentinelles, bon ça c'est un peu cool hein, il y a le côté un peu rétro-futuriste, pourquoi? Ah ben parce qu'il est méchant. Voilà. On a décidé que super caractérisation.
Il a pas de background.
Encore,
qui,
on m'aurait
une animosité particulière pour les X-Men.
Moi j'attendais.
William Stryker, ça s'expliquait parce que son fils, il l'avait rejeté, donc du coup, voilà, il y avait une vengeance personnelle. Mais Trask, il a rien contre.
Mais là, tu prends l'acteur de Game of Thrones pour faire lui. donc qui est une personne de petite taille. Donc je me dis quelque part, il y a un sens. Il y a un sens parce que peut-être que le mec il a envie des mutants par rapport à quelque chose. Mais non, même pas du tout.
À un moment donné, il y a un dialogue qui pourrait faire penser à ça. Puis, ah, c'est là qu'il va.
Oui,
qu'il
mais
va dire.
Pareil. J'attendais le truc. Et ben non. Mystique. Bah tiens, parlons-en des incohérences. Alors Mystique, on apprend qu'elle meurt. Putain, elle meurt dans les années 70, mais elle est là dans les X-Men 1 et 2 qui sont dans les années 2000. Mais c'est quoi cette merde, quoi? Expliquez-nous, quoi. Donc,
Un des points positifs du film, c'est quand même qu'ils ont vachement poussé la personnalité de professeur Charles-Xavier jeune, où là on voit le tourment intérieur. Là, franchement, c'est comme tu disais tout à l'heure que McAvoy s'était lâché. Mm-hmm. Là, on voit c'est vraiment le cœur du film qui fonctionne bien, quoi.
Mais je vais te dire, c'est facile. C'est comme Tony Stark qui est alcoolique, quoi. C'est un arc narratif. Ok, voilà, il est malade, il est handicapé. Tu le vois dans tous les téléfilms sur M6. Je veux dire, il n'y a rien de neuf à se mettre sous la dent, quoi. Et genre, même en termes de personnages, même le futur, comme il disait, on a Bishop. Ouais, super, c'est cool.
Oui,
on a envie de savoir, mais on ne sait pas.
Oui, mais d'un autre côté, je peux comprendre un petit peu quoi, le souci du réalisateur, ou du moins des scénaristes, hein, c'est de remplir un petit peu, quoi, d'étoffer un petit peu le personnage. En fait, de ce côté-là, moi, je trouve que McAvoy le fait très bien.
Oui,
quoi.
Oui, ça, c'est
vrai. Il
n'y
a pas de problème, quoi.
Oui.
Et puis, justement, quoi, ça contrebalance avec ce que je disais avant, c'est que Xavier, c'est un type qui participe jamais, il fight jamais, ce mec.
C'est vrai.
Tu le vois jamais balancer son fauteuil roulant, quoi, sur la gueule d'un adversaire, parce qu'il peut pas, quoi. Si, peut-être qu'il pourrait techniquement, mais enfin, jamais. Donc, pour contrebalancer, justement, quoi, il faut lui donner des espèces de moments où il va avoir des joutes. Hein, mais ça va être des joutes qui vont être plus intellectuelles, plus verbales, en fait.
Et donc là, on a pendant tout un film donc Volvi avec des griffes en os.
Oui,
ça sert à rien.
Mais
ça
c'est même pas raccord.
Oui, ça se comprend parce que techniquement et chronologiquement, il fait plus ou moins la connaissance de ce qui est encore le général Stryker. Mmh. Donc on peut se dire que ça va augurer quelque chose dans les prochains.
À la fin, on est d'accord, il a des griffes en os.
Il a des griffes en os.
Ah oui.
Mais alors, ce qui est complètement taré, c'est que.
Enfin, normalement, oui.
Et le pont avec le dernier Wolverine.
Est-ce que tu penses qu'ils vont être capables de faire les prochains films X-Men avec un Wolverine qui a les griffes en os? Ils vont pas être capables de revenir à l'Adamantium?
C'est pas possible.
Là, ils peuvent pas.
En coup de 2-3 flash et back comme ils l'ont fait dans le film et tout.
Oui,
quoi,
oui,
vraiment,
ils ont
fait.
Voilà.
Et vas-y, puis en plus en 3D, tu vas voir, c'est vachement plus joli. Ça passe à l'aise, il y a pas de problème. Hein, pour le popcorn consommateur, ça va passer
c'est
à la poste.
Le film, quand même, finit par effacer tout ce qui a existé avant.
Mais carrément.
Complètement.
Ah oui, c'est une relecture.
À la poubelle.
C'est une relecture, il n'y a pas de problème.
C'est quoi l'intérêt?
Et même, il y a un syndrome Alien 3 que je n'avais pas vu depuis longtemps dans un film. C'est-à-dire que si on se souvient de la fin de X-Men First Class, on sort du film, on se dit tiens, Magneto, il est en train de constituer une équipe avec des super vilains. Ça va donner pour l'autre. Eh ben, tu croyais quoi, toi, mec? Tu croyais que t'allais voir cette équipe en allant voir les, mais non, tu vois que dalle.
Bon, il dit à un moment donné qu'ils sont tous morts.
Oui, alors, et puis comment c'est fait? C'est expédié comme dans Alien 3. Là, on a un joli truc. Ah, mais oui, ils ont fait des expériences, ils ont tous tué. Alors, il y a des super pouvoirs. Génial. Je veux dire, même Emma Frost, elle était sexy en diable. Elle dit, on t'expédie tout ça. Allez, à la poubelle. Et qu'est-ce qu'on a? On a une espèce des vieux gars pourris dans le futur avec des costumes en latex. Je dis non. Non.
Alors j'ai une autre question existentielle. Du coup, on apprend comment se flinguer une carrière en enquillant les coupes de cheveux avec des cheveux blancs dans le cas de Tornade.
Oui.
Au fur et à mesure de la franchise.
Ouais.
Parce qu'on, il faut pas oublier qu'elle sortait de À l'ombre de la haine quand même avant de faire les X-Men.
Ouais.
Oui, elle est bérée.
Ouais. Mais c'est pareil, elle est un personnage qui ne sert à rien.
Oui, et puis même je pense
si
que
le problème c'est que ce film ça a été un casting. Point. Puisque l'idée de base c'est on va reprendre l'ancien casting avec des gens qui sont connus, etc., et qui plaisent à tout le monde. Le nouveau casting il a plu avec le dernier, et on va tous les mettre ensemble. Si on mettait un mec de Game of Thrones, ça marche bien. il te le balance au milieu, et résultat, tout le monde s'emmerde là-dedans quand même, globalement. À part McAvoy qui est dedans et qui fait son truc. Les autres, je veux dire, Hugh Jackman, de toute façon, il regarde sa montre, il attend d'avoir son chèque avant d'abandonner.
McKellen, pareil.
Et McKellen, ils ont. Ouais, ils s'emmerdent.
Moi, je crois que c'est Patrick Stewart qui est le pire dans le truc. Putain, j'attends mon tour et tout.
Voilà, ouais.
Je suis dans la salle d'attente, quoi. Parce que lui, il est assis tout le temps, quoi.
Ouais, en plus, ouais.
Papy gâteau, quoi. Avec le sourire, tu sais, figé comme ça. Tu sais, c'est la fin du monde. Mais ça va aller. Mais ça va, c'est rien.
Et du coup, ils ressortent le mec Iceberg qui avait pas joué.
Iceman,
bref, qui est très content de venir, qui a un rôle complètement pathétique et qui ne sert
pas
à rien.
C'est pas Top Gun, ça, Iceman?
Si.
Ah si. Aussi.
Mais d'ailleurs,
Val Kilmer.
D'ailleurs, un truc, Kitty Pryde n'a jamais eu le pouvoir de ramener, envoyer quelqu'un dans le passé. Ça n'existe pas. Normalement,
ouais, peut-être que dans le futur, elle a développé ce pouvoir.
Ouais, il te comble les failles du scénar. Il travaille chez la Fox.
Mais voilà. les mecs à la Fox, ils n'y avaient même pas pensé. Quoi. Enfin, je sais pas. Il y a un truc où. C'est pas, est-ce que ça aurait été compliqué de se dire, on prend pas Kitty Pryde, on prend un nouveau.
Oui.
Dont
c'est le pouvoir.
Dont c'est le pouvoir. Il y en a sûrement logique. Dans tous les X-Men.
On s'est dit qu'elle avait fait son coming out il n'y a pas longtemps, donc on va la prendre, ça va être connu.
Putain, ouais, mais bon, c'est pareil. Voilà, c'est que du buzz, c'est que du marketing.
Non, mais là aussi où tu vois qu'il y a un gros majeur qui se lève dans ta gueule. C'est à peu près ça dans le film, moi ça m'a choqué. C'est tu prends le personnage de Magneto qui est mort, qui est complètement à la trappe dans ce film là. Hein. Il est là pour faire le mort. Alors, toi tu fais le méchant et tu pètes des trucs. Bon, ok, voilà. Super. Ouais. Donc, et là il rencontre Vif Argent. Alors tout le monde de la BD sait plus ou moins que c'est à demi avoué que Vif Argent c'est le fils de Magneto. Ok,
oui, normalement oui.
Comment en 30 secondes te démonter tout le travail d'un film juste avant, et un travail d'acteur, de caractérisation de personnage. T'apprends de la bouche de la nouvelle égérie de Bryan Singer que sa maman aurait couché avec un mec qui manipulait le truc. Et là, gros plan sur le visage d'un Michael Fassbender en mode comédie décalée, un peu mal à l'aise. Et là, tu te dis, mais putain, c'est quoi? Mais c'est pas une comédie. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Voilà. Ouais.
Qu'est-ce que c'est que cette merde? Donc. Je vais faire une petite parenthèse, je parle beaucoup. Hein.
Non, parce que là, il va falloir qu'on parle des affaires judiciaires de Bryan Singer.
Donc, tu parlais de casting. Donc, oui. Moi, je vais rebondir là-dessus, parce que, apparemment, Bryan Singer, c'est le roi du casting. Donc, vous allez comprendre.
À quel niveau?
Au niveau des X-Men, littéralement. Ouais. Hein. Ouais. Parce que bon, là, c'est pareil. Moi, j'en avais parlé à Thomas à l'époque, parce que bon, je regarde souvent, je suis un petit peu l'actualité sur les forums américains, etc. Et c'est là que j'ai vu pointer sur un forum un joli nom pour le dernier film. Ce n'est pas moi, je décline toute responsabilité. Et donc sur le forum, avant que le film sorte, ça s'appelait X-Men Gaze of the Future Ass. Donc ce qui veut tout dire. Et on apprenait en fait que Bryan Singer est accusé en fait de viol à multiples reprises sur de jeunes homosexuels. Donc ils n'étaient pas majeurs. Donc c'est pour ça qu'on parle de viol. Et pour faire écho à une autre actualité qui est le Welcome to New York d'Abel Ferrara. Donc on va dire que nous on a Dominique Strauss-Kahn et eux apparemment donc. Pour l'instant, il est présumé innocent, donc on va pas faire de parallèle. Mais eux ont aussi leur Dominique Strauss-Kahn bien à eux, qui est Bryan Singer. Et c'est vrai qu'on a découvert, on va dire, la côté de ce réalisateur-là qu'on n'aurait jamais imaginé avec sa petite figure d'ange. Mais bon, généralement, on dit ça sur ces gens-là.
Ceci dit, il est présumé innocent pour l'instant.
Il est présumé innocent.
Même s'il y a des photos qui circulent.
Et donc, il y a des photos qui circulent. Et pour la faire courte, Bryan Singer aime organiser des parties fines, comme on appelle ça chez lui, donc dans sa grande villa, avec exclusivement de jeunes hommes. Et il fait ça donc dans sa villa, autour de la piscine, et il invite un petit peu tout le gratin d'Hollywood, toute une espèce de cast, dont on va dire gay, bien pensant d'Hollywood, avec par exemple Roland Emmerich. On a l'écrivain aussi Bret Easton Ellis, donc on a aussi le producteur des derniers X-Men, j'ai plus son nom. Et ben il se trouve que l'un des jeunes gens qui a été abusé par Bryan Singer et toute la clique a porté plainte et a expliqué que en échange de rôles secondaires dans les films X-Men, et ben il est obligé d'accepter certaines choses, donc je ne connais pas les détails, avec Bryan Singer. Donc c'est pour ça que Bryan Singer n'a pas assuré la promotion du dernier X-Men, parce qu'il a empêtré jusqu'au cou. À l'heure actuelle, c'est 2 voire 3 accusations de viol, et puis les langues se délient au fur et à mesure, et là c'est tout un univers, on va dire, un peu glauque qui est en train de s'ouvrir à Hollywood, et je pense que David Cronenberg en fera un film à un moment donné.
Voilà. D'accord, bonne
David
conclusion.
Si tu m'écoutes, ouais. Arrête avec tes films merdeux là, je pense que le vrai sujet il est là, parce que Ferrara il va piquer le truc, il va tourner ça dans une chambre d'hôtel avec deux acteurs miteux.
Tu l'as vu le Maps to the Star?
Pas encore, mais il paraît que c'est
Ah ouais, non, je pense que je vais aller le voir quand même.
Il paraît quand même que c'est c'est autre entre guillemets, mais pas dans le bon sens.
Ouais, ouais. Ceci dit, comme on avait pu revoir le Batman Forever et Batman et Robin sous l'angle crypto-gay de Joel Schumacher, maintenant c'est vrai que là, sachant ça, on peut se revoir les X-Men et s'apercevoir de quantité de petits détails qui sont pas anodins.
Oui, et oui,
notamment les costumes en latex cuir, Colossus qui passe tout le film numéro 2 en torse poil, cette scène comme mentionné tout à l'heure de Hugh Jackman à poil dans le dernier,
et puis l'espèce de relation de Magneto et Xavier dans le futur qui est un peu très proche, il y a une
accolade aussi un petit peu crypto-gay entre Wolverine dans le passé, je sais pas si c'est pas Magneto, ils se tiennent beaucoup par l'épaule, ou avec le professeur Xavier, enfin bon, et puis même Vif Argent, il est filmé sous toutes ses coutures avec son costume.
Non mais ça c'est ça qui est rigolo, c'est que sur le net on peut comparer le Vif Argent de Marvel, puisque là on a des photos de tournage du Avenger 2
qui sera dans le Avenger 2, on le dit aux auditeurs, hein, pour ceux qui
voilà
la sorcière rouge aussi,
voilà là. Vif Argent qui est une armoire à glace, voilà, qui est dans l'optique de James Ruffalo,
très masculin, on a l'opposé en fait.
Voilà, et puis là on a un Vif Argent en espèce. Alors, je sais plus qui c'est qui me disait ça, on avait l'impression vraiment qu'il était sorti de Final Fantasy, le mec.
Oui, c'est un
personnage de Final Fantasy X, le mec.
Complètement.
Voilà.
Avec ses espèces de petites lunettes, ses cheveux blancs et tout.
Ouais.
Donc voilà,
en tout cas, voilà, on a deux Vif Argent pour le prix d'un dans deux productions de maisons de production différentes.
Et donc, parce que moi j'ai dit ce que j'en pensais, mais vous, qu'en avez-vous pensé de ce X-Men?
D'ailleurs, alors juste petite anecdote, l'acteur qui joue le Vif Argent pour les Marvel Studios, dans le Avenger 2,
c'est l'acteur de Kick-Ass.
C'est l'acteur de Kick-Ass de Matthew Vaughn.
Et de Godzilla.
Ah, d'accord. Ah, ouais. Tout se tient, tout est lié en fait.
De là à se dire que Matthew Vaughn est chez Marvel, on ne sait pas.
Ouais, donc oui, non, tu demandais notre avis.
Bah oui, votre avis, oui, c'est important.
Mais moi je trouve que c'est très très dommage et que.
Faut-il aller le voir ou non, quoi.
On retombe dans tous les travers. Je pense pas que ce soit très important d'aller le voir. Éventuellement, attendez qu'il passe à la télé.
Ou
attendez que Netflix arrive et qu'il nous propose de le voir en streaming légal. Pour le coup, mais non, ça vaut pas de dépenser des sous à mon avis pour encourager cette espèce de marketing à tout va et du
sport semble avoir un avis un peu plus tranché peut-être.
Je sais pas, enfin moi c'est tout récent, hein, je l'ai vu hier après-midi, donc
ouais, c'est bien.
Je suis sorti complètement interloqué, je me suis dit qu'est-ce que j'ai vu comme film, quoi, c'est quoi ce truc, quoi, je sais pas, je suis partagé, quoi. Disons que d'une optique purement marchande, il n'y a pas de problème, hein. Le film a coûté 200 millions de dollars. Dès la première semaine, il y avait 111 millions qui étaient engrangés, quoi. Donc, on peut se dire
que c'est le plus gros succès.
Au niveau succès financier, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que, il y a beaucoup de gens qui ont plus ou moins aimé, qui ont plus ou moins adhéré, qui aura le prochain.
Qui est déjà annoncé.
Voilà, c'est ça.
Sinon, X-Men Apocalypse.
Moi, j'en reviens vraiment aux deux trucs qui m'ont un petit peu choqué, quoi. En disant, c'est l'apparition de Bishop. Que moi, je vois pas ce qu'il fout dedans, quoi. C'est complètement, inapproprié, je trouve, quoi.
Oui.
Hein, vraiment, quoi. Et, après, quoi, le film se laisse voir et tout. Alors, concernant la 3D, je peux dire que moi j'ai trouvé le générique vraiment très très bien ficelé en 3D, c'est pas mal, c'est sympa, quoi.
On l'a pas vu en 3D.
Ça vaut le coup. Après, bon, c'est un petit peu plus dispensable, on va dire. C'est un petit peu dommage, mais enfin bon, ça le fait quand même, quoi, de toute façon, quoi. Sinon, bon. C'est peut-être le film qu'il faut pas louper, quoi, si vous voulez pas avoir des trous lorsque vous verrez le prochain.
Oui,
c'est ça. Avant d'ici là, ce qui sort, on pourra.
C'est ça, quoi. Ouais. Je vais rajouter quand même que j'ai maté. Alors, je suis resté jusqu'à la fin justement pour voir le truc après le
post-générique.
Le post-générique. Où je me suis dit voilà enfin la jonction entre Star Wars et les X-Men.
Et moi pareil, je me suis dit Stargate avec la pyramide,
la princesse Amidala, quoi, qui est en train de faire Stargate, quoi, et convertir des mecs et tout, quoi.
Ou c'est peut-être un ingénieur de Prometheus.
Oui, on sait pas.
On sait pas.
Ils vont nous faire un reboot de Stargate d'ailleurs. Ça, c'est depuis. De toute façon, ils font des reboots de tout.
Très bon enchaînement pour reparler de Roland Emmerich.
Ouais.
Oui.
Bon,
qui était dans les soirées.
Sinon, je reste surtout pour le générique parce que bon, j'ai envie de voir les musiques et de voir les crédits.
Ouais.
Et je me suis dit, pourtant, j'ai regardé tout le film. J'ai pas vu Stan Lee faire une apparition.
Je crois que je l'ai vu, moi.
Il n'est pas crédité, du moins, du tout, du tout, du tout. Bon, bah, il est bien sûr crédité comme producteur exécutif.
Oui,
ça c'est
oui,
normal.
Bah,
hein,
oui.
Mais par contre, là, il va falloir revoir le film parce que il y a deux des créateurs ou deux des gens qui ont contribué à la popularité de X-Men en comics, Chris Claremont. Qui joue le Congressman Parker, c'est-à-dire les mecs qui sont derrière le président.
Oui, d'accord.
Alors bon, j'ai trouvé que c'est que la caricature du président Nixon était vraiment très très réussie.
Bah, c'est comment il s'appelle cet acteur qu'on voit beaucoup. Il était dans Blonde Drive.
L'acteur est vraiment très très bien. Il le fait très très bien. Il surjoue pas. C'est pas mal.
Ouais,
il y a également Len Vine qui joue un autre Congressman. Len Vine, donc le type qui a créé Wolverine entre autres, et puis qui a aidé à foutre les X-Men originaux en place. Donc, mais par contre, il n'y a pas de Stan Lee. Hein, ça me semble que.
D'accord.
C'est vrai que j'ai pas souvenir de l'avoir vu.
Il est parti avec Matthew Vaughn.
Peut-être.
Ouais. Bon, je crois.
Peut-être.
Est-ce qu'on a le temps pour vite fait pour les prochains projets adaptation de comics au cinéma qui risquent d'arriver
le X-Men Apocalypse hein, qui est censé être réalisé par Singer s'il n'est pas en tôle d'ici là, donc ça c'est la grande interrogation.
Et je sens que si on parle d'Ant-Man on en a pour une trente minutes d'émission encore.
Donc on peut quand même annoncer que voilà, du côté de chez Marvel, donc enfin moi je le dis aux auditeurs, si vous voulez aller voir du vrai film de super-héros, alors je veux pas qu'on me jette des trucs à la sortie de la salle. C'est pas moi qui l'ai fait le film, hein. Mais je pense qu'il y a moyen de miser quand même sur les Gardiens de la Galaxie, où il y a vraiment une autre proposition, plus type les aventures de Jack Burton, quelque chose d'un peu décalé, un peu rafraîchissant pour l'été. Donc je pense que
déjà les Gardiens en eux-mêmes sont un peu décalés, on va dire. Pas de problème, quoi. Donc ça peut donner quelque chose d'assez sympathique.
Moi j'ai pensé vachement au Guide du Routard Galactique un peu en voyant ça.
On est effectivement plus sur de l'humour. On va avoir de la grosse baston, évidemment. C'est obligé de toute façon.
Et c'est le genre de groupe que Bishop a l'habitude de rencontrer.
Voilà. Tout est dit. Et puis c'est 200 millions de brousouf quand même qui sont donnés au mec qui a fait Horribilis et qui a travaillé chez Trauma. Donc je veux voir. Je veux voir.
Horribilis qui par contre est un petit film très sympathique.
Qui est super, très sympathique. Et donc il y a je pense que ce film-là va être une étape importante pour Marvel parce qu'il y a une réelle prise de risque, je pense, même si c'est calibré, de mettre un mec comme ça à la tête de 200 millions de dollars et d'une franchise en devenir. Il y a une vraie.
Et puis pour une fois, ils nous mettent Chris Pratt, donc qui sort de nulle part quasiment là. Il joue dans Parks and Recreation, donc ce qui est vraiment une vraie comédie pour le coup, qui est d'ailleurs très très bien. Et ils vont le balancer en premier rôle d'un truc et tout, etc. Il le sort de nulle part. Il a énormément d'humour. Il est capable d'avoir un très très bon jeu. Donc je pense que ça va être très intéressant à suivre. Et puis après tout, il y a Vin Diesel aussi qui fait la voix de Groot.
Mais il y a un casting génial. Il y a Bradley Cooper qui fait la voix d'un raton laveur galactique. On a Vin Diesel qui fait la voix d'un Omar. Bon, on va résumer comme ça.
Il y a
Zoe Saldana.
Comme toujours.
Bleu ou verte.
Il y a un acteur, un grand acteur shakespearien qui est Dave Bautista, là, une espèce de gros musculeux.
C'est le catcheur, ça.
Ouais, c'est le catcheur. Ouais. Et après, alors ça, c'est des petits trucs, parce que on sait que le réalisateur, il vient avec sa petite équipe. On a quand même Michael Rooker, qui, pour les plus vieux, et Henry, Portrait of a Serial Killer, donc c'est-à-dire.
Entre autres. Ou répliquant.
Donc, on a Michael Rooker dans le rôle d'un super-héros. Et ça.
Excellent.
Il y avait que ce mec-là le faire.
Ouais, donc, je reconnais.
Et on a aussi Benicio del Toro.
Et Benicio del Toro avec des longs sourcils.
Oui. Bon. Et qui vont faire donc du coup le pont, ça va être le point d'entrée sur toutes les sagas galactiques après. Donc c'est pas
impossible. Ça va lorgner vers DC. Vers son Green Arrow.
Donc Singer, accroche-toi à ton fauteuil. Au mois d'août, c'est la mort qui arrive.
Ouais, on risque d'avoir Green Lantern, Silver Surfer derrière ou des trucs comme ça.
Les gars, merci beaucoup d'être venus parler de la saga X-Men avec nous. Du sport, on te laisse avec l'émission Ça c'est du sport, c'est de suite, là c'est à 14h. Nous, quand on se donne rendez-vous pour une prochaine émission spéciale, vous êtes toujours les bienvenus.
Pourquoi pas pour les gardiens d'ailleurs.
Et Eddie, on attend toujours ta chronique régulière que tu nous as promis.
Ben alors du coup, ben on va pouvoir la lancer maintenant. Hein. Du coup, la ah mais non, mais il faut laisser le micro à du sport. Je suis
non,
désolé.
Non,
hein,
non, 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 allez, vas-y. C'est bon.
Non, non, mais genre j'ai rien. Je suis venu les mains dans les poches.
Ah
avec
non, mais c'est pas pour aujourd'hui. Mais tu peux peut-être nous faire un petit buzz sur ta prochaine chronique. Qui parlera pas d'acteurs neurasthéniques et de d'acteurs de petite taille. Ce sera plutôt des gros. Quoi.
Oui. Ça serait pour faire écho à une rubrique que j'avais dans le zine, hein, qui s'appelait le bar de Nice Quaid. Donc c'était sur les acteurs.
Dimension, pas cher.
Voilà, c'était sur les acteurs alcooliques. Donc maintenant, nous, on va voir les septuagénaires de l'action. Donc voir un petit peu ce qu'ils sont devenus. On a du saumon agile, on a du papy fait de la résistance, on a plein de choses. Donc et on aura même du Scott Adkins si vous êtes sage.
Cool. Sur ce, on vous laisse avec du sport.
Attendez,
le
je voulais juste rajouter un truc et tout. Bon, c'est le bouquin que t'as devant toi, Corentin et tout quoi. Alors, il y a pas de version française qui existe. C'est un bouquin qui s'appelle
Marvel Comics The Untold Story
par un mec qui s'appelle Sean Howe, qui est un journaliste qui a travaillé dans tous les journaux underground sur New York et même du côté national, c'est-à-dire Rolling Stone, Scream, Village Voice, New York Times, je sais pas quoi, enfin tout. Et qui a écrit plein d'autres bouquins sur le sujet. Et là, si vous voulez, quoi, c'est pas tellement le bouquin qu'il vous faut. Si vous voulez avoir le contexte historique, tout le truc, les dates précises et tout le bordel, non, pas trop. S'il y a quelques dates quand même, quoi. Bon, là, c'est plutôt quoi, un bouquin qui est un petit peu thématique sur justement, eh ben, les thématiques de départ et l'évolution de ces thématiques des super-héros de Marvel, mais également tout le côté financier et tout le côté un petit peu relationnel entre les différentes personnes qui ont contribué à créer tout cet univers, hein, parce qu'on sait qu'il y a des gens et tout, il y a des trucs qui sont très très durs dans ce bouquin. Kirby qui dans le début des années 80 déclare que Stan Lee n'a jamais écrit aucun scénario de Marvel, enfin bon, des trucs vraiment énormes, mais bon, et pour comprendre également ce dont on parlait un petit peu succinctement avant en ce qui concerne les enjeux financiers justement quoi, comment Marvel qui était pratiquement au bord du gouffre quoi au début des années 90, eh ben est maintenant une puissance, bon rachetée par Disney d'accord, mais quand même est une puissance commerciale culturelle très très importante, hein, qui peut se permettre le luxe de sortir un film par an, voire peut-être des fois deux films par an quoi. Donc ce n'est pas à négliger non plus. Et dans ce bouquin, eh ben, on a un aperçu, le livre a été un petit peu retravaillé, ça va jusqu'à 2012-2013. Donc c'est jusqu'à l'histoire très très récente, hein, de ce qu'est devenu Marvel et tout ça quoi. Donc à trouver dans les librairies en ligne, on va dire. Pour pas faire de pub. Sean Howe, donc Marvel Comics The Untold Story.
Sean Howe a un site qui s'appelle seanhowe.com.
Voilà, Howe c'est H-O-W-E.
C'était le supplément week-end spécial X-Men. On vous donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine, peut-être un autre samedi. Tout de suite, c'est du sport. Vous pouvez retrouver les podcasts depuis le début de l'émission. C'était la 387e sur le site supplementweekend.fr. Vous pouvez nous retrouver également sur Google+, Facebook, Twitter. Allez-y, vous pouvez réagir, nous dire si on était dans le juste ou si on a balancé des grosses bêtises. Sur la série X-Men. Corentin et Eddy, merci beaucoup.
Merci à toi.
Passez un bon week-end.
Bon, j'espère que vous avez quand même jeté une oreille attentive à la bande originale de ce film des X-Men. Parce que maintenant, on parle de musique, c'est normal, il est 14h sur Radio FMR, 89.1 MHz. Eh bien, on avait Roberta Flack qui nous faisait deux fois. Le morceau vient à la fin et pratiquement, on va dire, au début du premier tiers. Enfin, dans le premier tiers, c'est « The first time I ever saw your face ». On a le morceau qui fait ambiance typique des années 70, c'est le Hello Hooray de Alice Cooper. Yeah. On a après toute la personnalisation française que moi j'ai trouvé outrée vraiment quand il s'agit en 1973 des accords de Paris avec les Vietnamiens, toute la séquence assez grande qui se passe à Paris. Alors il y a Cécy Bon de Earth Sakit et il y a également la reprise française de Claude François de Stop in the Name of Love, stop au nom de l'amour quoi, quand ils sont en boîte et qu'ils dansent et tout ça quoi. Et là c'est énorme parce que c'est une séquence qui dure quand même pas mal de temps. Ouais. On a le temps d'écouter deux couplets et deux fois le refrain quoi. Donc ça veut dire que Brian Singer a quand même des goûts, on va dire un peu spécifiques. Allez, on va dire ça comme ça quoi. Allez, c'était le supplément week-end.
On parle du niveau musical, hein.
Ouais, tout à fait, quoi, tout à fait. Merci les gars, à la prochaine.
Merci à vous.
Allez, jusqu'à 15h, un petit peu de musique comme d'habitude, des nouveautés du français pour commencer. Bah ouais, pourquoi pas, hein. Allez, ouais.